6211 Jeffersonville, Indiana. Merci, Frère Neville. Tout d'abord, j'ai été tellement occupé aujourd'hui à un point tel que j'ai manqué quelques visites pour les malades. Il y avait des gens ou des cas privés pour lesquels je devais prier et que je devais rencontrer. Mais maintenant, quelques-unes des personnes impliquées, je crois que Billy a dit que certaines de ces personnes étaient du Canada, de deux ou trois endroits différents. Maintenant, ils viennent ici, vous savez, ils restent constamment dans les hôtels, motels. Je vais les rencontrer et prier pour eux venant de partout dans le monde, et l'Asie, l'Europe et de partout. Jour après jour, quand nous sommes ici, les gens viennent, il y en a de plus de 600 sur la liste, attendant des entretiens privés. Alors, ça rend les choses un peu difficiles. Mais les personnes qui sont vraiment malades et les cas d'urgence, pour que l'on prie pour eux, eh bien, puisque j'ai été avec le conseil d'administration lors d'une petite audition avec mon conseil d'administration ici à l'Église, nous avons dû nous rencontrer il y a quelques instants et pendant ce temps, ça m'a déstabilisé pendant environ une heure et demie. Il y avait des gens censés être ici à ce moment-là pour que l'on prie pour eux. S'ils sont ici, j'aimerais maintenant prier pour eux. Donc, s'ils le veulent, ces personnes pour lesquelles nous devons prier, eh bien, s'ils peuvent monter maintenant alors que le pianiste, qu'il soit, viendra et nous donnera un petit accompagnement avec le grand médecin. Et maintenant proche, le compatissant Jésus. Maintenant, ceux pour qui nous devons prier, s'ils le veulent bien, combien il y en avait, je ne sais pas. Et vous êtes les frères, je suppose. Frères, j'ai beaucoup souffert dans ma propre chair. Jésus a porté dans sa chair des souffrances pour qu'il puisse être le bon type de médiateur parce qu'il est Dieu. Il s'est fait chair pour qu'il puisse souffrir. Il pouvait ressentir les douleurs de l'infirmité. Et c'est pourquoi il vient faire une expiation. Et en cela, il a chargé son Église de continuer son travail. Et j'ai un grand respect à la profession médicale, à la chirurgie et ainsi de suite, qui avec les talents que Dieu leur a donnés pour faire certaines choses au corps, pour opérer et enlever les dents qui font mal et ainsi de suite. J'apprécie cela. Mais il arrive un moment où ils sont au-delà de leur connaissance. Ils ne savent pas quoi faire, voyez? Et je pense donc que nous avons parfaitement le droit, comme nous le ferions dans le naturel, si nous consultions notre médecin de famille, peut-être un médecin à la campagne, un bon vieux médecin qui transporte une lanterne et marche dans le champ durant la nuit pour vous trouver, pour vous soigner. S'il ne sait pas, il consultera quelqu'un d'un peu plus haut placé que lui et il vous enverra un spécialiste. Et maintenant, si le spécialiste ne le sait pas, je suis content que nous ayons une autre ressource, le grand médecin. Et il n'échoue jamais, celui-ci, se peut, parce qu'il est le Créateur lui-même. Il a fait un chemin pour nous. Maintenant, s'il y avait une puissance de guérison en moi pour le faire, je viendrais et je le ferais. Je serais si heureux de le faire. Mais concernant la puissance de guérison, j'en ai pas. Aucun autre homme n'a la puissance de guérison. Mais nous avons reçu la commission, voyez, de la part de Christ, de prier pour les malades qui a déjà mis le dépôt pour la puissance de guérison. Voyez? Et nous ne venons pas que pour écrire un chèque à ce sujet. Et tout ce que vous demandez au Père en mon nom, c'est le chèque en blanc. Quoi que vous demandiez au Père en mon nom, je le ferai. Quelle promesse! Cela ne peut pas faillir. Et j'ai aidé mes frères et mes sœurs du monde entier. J'ai fait ces dépôts, j'ai fait ces dessins sur ces notes dans la banque de Dieu sur le sang de Jésus-Christ. Et ça a été très réussi. Il a toujours payé. Parce que le dépôt est déjà là, vous voyez. Il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous voyez, c'est terminé. Nous sommes heureux ce soir pour votre foi. Je crois que Billy m'a dit qu'un frère venait du Canada ou de quelque part. Est-ce bien cela, vous, le frère du Canada? Et d'où viens-tu, frère? Kendallville, Indiana, de Fort Wayne. Je me suis marié à Fort Wayne. Je me souviens bien, il y avait beaucoup de réunions au religieux Tabernacle. Je suppose que vous savez où c'est. Et je me souviens, en tant que petit garçon, assis au pied de Paul Rader dans le Tabernacle religieux, en tant que jeune étudiant dans le ministère, il était un grand homme. Frère Paul l'était. Il en est de même pour faire religieux, des hommes de foi. Leur âme se repose ce soir. Et maintenant, comme j'étais un petit garçon, j'essaie de continuer ce qu'ils ont laissé, ce que Jésus a laissé pour son Église. Maintenant, avec toute la foi que j'ai, je viens prier pour vous. Et je ne m'avance pas hasardeusement. Nous ne voulons jamais l'approcher de cette façon. Non, ce n'est pas bien. Nous venons croyant que nous allons recevoir ce que nous avons demandé, voyez, sachant que Dieu l'a promis. Et nous venons avec l'assurance dans notre cœur que Christ a fait la promesse. Et vous, frère, vous avez essayé de mettre votre foi sur l'autel, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Je mets la mienne avec la vôtre ce soir, voyez. Maintenant, nous avons un grand autel qui s'étend à travers le ciel, et sur cet autel se trouve notre sacrifice, le Fils de Dieu, voyez. C'est ce sacrifice sanglant. Dieu ne peut pas regarder cela sans le respecter, voyez, car c'est sa parole. Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Je vais demander à Frère Neville, notre ancien, s'il peut s'avancer avec moi maintenant. Je veux que toute l'Église, et si c'était votre frère, votre mari, votre fils, votre père, c'est quelqu'un, souvenez-vous, avec toute la sincérité que nous avons, approchons Dieu maintenant pour ses frères. Courbons la tête. Gracieux Père céleste, nous apportons maintenant dans ta présence, par l'autel de la grâce, bien que nous nous tenions à côté d'un petit banc de bois, ici sur terre, mais notre foi s'est élevée sur le grand autel brûlant où Jésus, la douce saveur odorante devant Dieu, le sacrifice de sang du Calvaire, qui a triomphé de toutes les maladies, toute la mort, de tous les enfers et tous les tombeaux. Il est ressuscité et monté au ciel pour s'asseoir à la droite de sa majesté. Et nous, par la foi, nous venons nous élever là-haut dans la grâce de Dieu pour dire sur cet autel, ô grand Créateur des cieux et de la terre, reçois-nous, Seigneur, alors que nous approchons au nom du Seigneur Jésus. Voici nos frères, et l'un d'entre eux vient d'au-dessus de Fort Wayne, ici aux États-Unis, et l'autre fait tout le trajet depuis le Canada jusqu'ici. Venez pour le moment le plus solennel. C'est une question de vie ou de mort, Seigneur. Voici deux hommes encore jeunes, il leur reste beaucoup de temps pour te servir, Seigneur. Deux soldats, des chrétiens qui te croient. Et l'ennemi a tiré une flèche, et cette flèche empoisonnée a frappé quelque part dans leur corps. Et ils sont revenus, ils ont battu en retraite à l'hôpital de la grâce de Dieu pour la réconciliation, pour la guérison, pour qu'ils puissent retourner au front à nouveau avec le bouclier levé en allant à la bataille. Ils sont venus rejoindre les forces de la prière avec nous, Seigneur, et nous allons à la rencontre de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, relâche-les. Nous te conjurons au nom de Jésus-Christ, laisse-les partir. Ce sont des guerriers de la bataille. Et en tant que votre serviteur, j'avance maintenant pour leur imposer les mains avec foi, croyant que ces signes accompagneront ceux qui auront cru, a dit notre Seigneur, notre grand capitaine en chef de la bataille. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Ceci, je le fais au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la maladie qui lie le corps de ce frère, relâche-le au nom de Jésus-Christ. La puissance de la maladie qui lie le corps de ce frère, relâche-le au nom de Jésus-Christ, que cela le quitte. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tous les bons dons. Amen. Tes bénédictions sur ceux que nous avons bénis. Il est écrit dans les Écritures, « Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous pouvez recevoir ce que vous avez dit, je crois. Leur maladie a quitté leur corps. » Maintenant, cela a été prononcé, maintenant que cela soit fait. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, je crois que tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ, je vous crois libéré. Amen. Est-ce que l'Église croit la même chose? Alors que cela soit fait. Maintenant, y aurait-il d'autres personnes ici qui aimeraient que nous nous souvenions d'eux dans la prière? Voudriez-vous lever la main? D'accord, approchons-nous de lui maintenant, alors que vous vous imposez les mains les uns aux autres. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Très saint Dieu, par la foi, nous voyons Jésus. Nous croyons qu'il est debout, présent. Il veille sur sa parole et il a dit, « Là où deux ou plusieurs sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Maintenant, Père Céleste, que la puissance du Dieu Tout-Puissant touche ces personnes, Seigneur, alors qu'ils ont leurs mains droites jointes les unes aux autres. La dernière commission que vous avez donnée à l'Église, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Tu l'as promis et nous le croyons. Alors maintenant, cela a été fait et nous te louons pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu oigne ses mouchoirs pour les malades et les nécessiteux. Et comme ils sont distribués et mis sur les malades, puissent-ils être guéris. Nous avons lu dans la Bible qu'ils ont pris de Saint-Paul des mouchoirs, des linges, les esprits impurs ont quitté les gens et les maladies ont été guéries. Et Père, nous savons que nous ne sommes pas Saint-Paul, mais nous savons que tu es toujours Jésus. Et nous prions que tu accordes cette requête pour ta gloire. Amen. Je ne sais pas s'il y a les bandes enregistrent encore ou non. Sont-elles en train d'enregistrer? Si elles ne le sont pas, je voudrais qu'ils commencent l'enregistrement à ce moment. Je crois qu'ils enregistrent. Maintenant, j'espère que je ne vous fatigue pas ce soir. Je commence environ une demi-heure ou 35 minutes plus tôt. Maintenant, c'est une leçon d'école du dimanche. Et j'ai pensé que peut-être que ça ferait du bien si j'avais cela enregistré sur bande, c'est sur mon cœur. Et nous préparons à entrer dans une nouvelle phase, un nouveau tabernacle, tout nouveau. Et maintenant, j'aimerais lire certaines des Écritures. Si vous voulez lire avec moi, je veux lire dans 1 Samuel, le 8e chapitre, et nous voulons commencer avec le 4e au 10e verset, et puis pour gagner du temps, du 19 au 20e. Et j'ai plusieurs feuilles d'écriture et des références écrites ici, que si vous avez un stylo et un crayon ou quelque chose, du papier, que vous voudriez vous y référer ou les conserver, vous pouvez les avoir ou frère M. McGuire aura la bande. Et je veux que cette bande soit dédiée aux ministres, à mes frères, aux ministres qui m'ont mal compris, en particulier les frères des églises dénominationnelles. et la plupart sont dénominationnels. Mon sujet ce soir est pourquoi je suis contre la religion organisée. Je vais lire maintenant pour donner un contexte ou une lecture des Écritures pour que ce soit scripturaire. Je veux lire dans 1 Samuel 8, 4 à 10, puis 19 et 20. À mon auditoire visible, j'espère que lorsque vous rentrerez chez vous, vous prendrez en note ces Écritures et vous allez les lire attentivement. Et aux frères qui écouteront la bande, j'espère que vous aussi, vous n'allez pas seulement arrêter la bande quand quelque chose est dit que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec, mais cherchez Dieu en elle. Voyez si c'est scripturaire. Je pense que nous le devons à nous-mêmes et au message du jour. Je crois que toutes les églises ont des chrétiens, et je ne parle certainement pas contre les chrétiens. Mais la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait et dit et ce que j'ai dit, c'est à cause de l'inspiration du Saint-Esprit sur la parole. Lisons maintenant dans 1 Samuel, le 8e chapitre, en commençant par le 4e verset et en lisant le 10e inclusivement en premier. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les fais monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi. » Samuel rapportait toute la parole de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Maintenant, le 19e verset et 20e pour conclure. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de ses paroles. Maintenant, en tant que classe d'école du dimanche, j'aimerais dire que nous voulons essayer d'être aussi attentifs que possible à la parole. Et nous savons que parfois des choses sont dites et certaines églises que cela fait trébucher quelqu'un qui a été enseigné contrairement à ce qu'ils ont entendu. Par exemple, un homme m'a dit l'autre jour, qui est un de mes amis qui est assis ici présentement, il a dit, « Quand vous avez dit, frère Branham, autant de fois que j'ai eu en vous et que je vous ai cru lorsque vous avez dit qu'il n'y avait pas d'enfer éternel, il a dit, je pensais tomber de mon siège. Et j'ai pensé certainement que cet homme a tort. Et puis, il a dit, vous nous avez laissé rester debout pendant un certain temps. Et puis, vous avez dit, Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et cela vient de Dieu. Et c'est ce que nous cherchons tous, voyez. Et il n'y a pas d'écriture qui dit qu'il y a un enfer éternel, parce que l'éternel n'a ni commencement ni fin. Donc, la Bible a dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Donc, ce n'est pas éternel. Il y a un temps où ça n'existait pas et il y aura un temps où ça n'existera plus encore une fois. Pour qu'ils puissent être punis là-dedans par le feu et le souffle et par les flammes de feu pendant des siècles et des siècles, mais cela va finalement arriver à une fin parce que l'enfer n'est pas éternel. Et s'il y avait un enfer éternel, il faudrait avoir la vie éternelle pour vivre dans un enfer éternel. Et si c'était éternel, cela aurait toujours été et vous étiez toujours en enfer et vous seriez toujours en enfer. Voyez, il n'y a pas une telle chose. Donc, vous voyez, éternel n'a jamais eu de commencement ni de fin. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et qui est en Dieu. Il vient du mot grec « zoé », ce qui signifie la vie de Dieu. Et lorsque nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous devenons éternels avec Dieu parce que nous avons une partie de sa vie, ce qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Alors nous avons la vie éternelle et la vie qui est en nous. Dieu ressuscitera le corps avec la vie au dernier jour. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui ressuscitera parce que c'est un Esprit de Christ qui était en Christ. Cela stimule nos corps et il nous ressuscitera aussi avec lui pour s'asseoir dans la gloire et régner avec lui. Maintenant, revenons au sujet. Maintenant, j'ai traversé ces dernières années et ce tabernacle s'est tenu ferme, bien que j'ai été ordonné dans une église baptiste missionnaire par le docteur Roy E. Davis il y a environ 33 ans, ici à Jeffersonville. Maintenant, depuis lors, j'étais dans l'organisation un court laps de temps, quelques mois, jusqu'à ce que quelque chose survienne qui n'était pas scriptural de l'église. Et je lui ai dit que je ne peux pas accepter cela. Et bien sûr, on m'a demandé de faire-le ou sinon. Et j'ai fait sinon. Donc, c'était une chose que je crois que ceci, c'est la parole de Dieu. Et j'ai dit à l'homme, qui était un docteur remarquable, si vous me montrez cela dans la parole de Dieu, et c'était, il a dit, mais c'est notre enseignement. J'ai dit, mais je le veux dans la parole. Vous voyez, de la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce que je n'appartiens pas à une organisation que j'ai été contre l'organisation, parce que je suis reconnaissant à mes frères auxquels je parle aujourd'hui, que j'ai des invitations pour, j'imagine, presque toutes les dénominations, surtout dans les rangs de l'Évangile et même dans beaucoup d'autres églises. On m'a demandé d'entrer dans leur communauté et de me joindre à eux, mais je suis resté indépendant parce que l'influence que j'ai, je ne souhaite pas le placer sur un seul groupe de personnes. Je souhaite placer ce que Dieu m'a donné, la prière pour les malades, pour que tous les enfants de Dieu de chaque organisation puissent en bénéficier. Il ne m'a jamais questionné pour ne pas prier, ou pour celui ici parce qu'il appartient à tel ou tel. Dieu juge le cœur de l'homme. Et maintenant, pour commencer, la raison pour laquelle je n'aurais pas appartenu et que j'ai parlé contre cela, c'est d'abord parce que je ne crois pas que l'organisation du christianisme soit scripturaire. Je crois que ce n'est pas scripturaire. Et c'est ce que je vais essayer ce soir, par la grâce de Dieu, de vous prouver que ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas orthodoxe d'avoir une organisation. Maintenant, premièrement, nous l'appelons religion. Le mot « religion » est une couverture. Il signifie « couvrir quelque chose ». Maintenant, Adam avait une religion, mais il l'a certainement fait lui-même à partir de feuilles de figuier, et cela n'a pas fonctionné. Il a fait sa propre théorie et a essayé de trouver un moyen d'échapper, de trouver le salut dans quelque chose qu'il avait fait lui-même, et Dieu l'a rejeté. D'Adam jusqu'à l'ordre de la dernière organisation, ce n'a jamais été, et par la grâce de Dieu, nous le prouverons aujourd'hui par la Bible. La religion était une couverture. Adam s'est fait une couverture de feuilles de figuier. Il l'a fait lui-même pour essayer de faire quelque chose lui-même. Mais Dieu a exigé la mort, une expiation. Maintenant, il y a une très grande différence entre la religion et le salut. Vous voyez? Le salut. La religion est une couverture, vous voyez? Le salut est une naissance. Un don de Dieu. Le salut est une naissance, un don de Dieu. Il ne peut être réalisé par aucun homme ou groupe d'hommes. C'est un individu auquel Dieu donne ce don. Et ces dons de la vie éternelle ont été ordonnés de Dieu à chacun avant même d'avoir un monde, selon les Écritures. La Bible dit dans Apocalypse que l'Antichrist qui devait venir sur la terre tromperait tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Vous voyez, Dieu, par sa préscience, a vu qui viendra et qui ne viendrait pas. Christ est descendu pour faire un chemin pour ceux qui viendraient. Vous voyez, connaissant les autres. S'il est Dieu, il doit être infini. Et s'il est infini, il ne peut être infini sans être omnipotent. Il ne peut pas être omnipotent sans être omniprésent. Il ne peut être omniprésent sans être omniscient. Alors, vous voyez, tout cela fait de lui Dieu. Donc, il connaissait la fin dès le commencement. Il savait qui le ferait et qui ne le ferait pas. Il savait que beaucoup le feraient, alors il a envoyé Christ pour faire une expiation pour ceux qui viendraient. Maintenant, nous ne pouvons rien avoir à faire avec cela. Jésus a dit, « Tous ceux que le Père m'a donné à est au passé viendront à moi. » Et nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Vous voyez? Maintenant, vous voyez, tout est dans la connaissance de Dieu. Vous dites, Frère Branham, suis-je là-dedans? Je ne sais pas. J'espère que je le suis. Nous travaillons notre propre salut avec crainte et tremblement. Maintenant, l'Église est prédestinée à rencontrer Dieu sans tache ni ride. Maintenant, si nous sommes dans cette Église, nous sommes prédestinés avec cette Église. Maintenant, examinez-vous par la parole, alors vous pouvez vérifier à quel point nous en sommes. Maintenant, le christianisme organisationnel ne peut jamais donner cette assurance. Non. Certains d'entre eux ont dit, vous venez confesser que Jésus est le Christ et soyez baptisés dans l'Église, le diable fait la même chose. Il croit lui-même que Jésus-Christ est le Christ et tremble. Vous voyez, c'est vrai. Dieu n'a jamais commandé, nulle part dans l'Écriture, qu'il y ait des organisations, qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible pour cela. Adam en a commencé une et elle a failli. Et puis Nimrod a essayé de faire une organisation. Si vous êtes un historien, que vous connaissez l'histoire de Babylone, lisez Hyslop, les deux Babylones, cela vous éclairera un peu. Cela, Nimrod, cet homme de péché, a pris Babylone et toutes ces petites églises sœurs ou ce qu'il y avait autour, qui était un type du christianisme apostasique du dernier jour. Il a fait une grande place et tous les autres ont joué lui ont rendu hommage. Et là-dedans, il a construit une tour et il a essayé d'organiser l'homme ensemble, mais cela a failli. Ça a failli. Corée, dans Nombre 16:1, si vous voulez lire, Corée a essayé exactement la même chose. Il a rassemblé tous les Lévites et il a obtenu une partie des célébrités, l'homme très haut placé, le grand homme, le saint homme, et lui et Dathan se sont réunis et ont dit, ce n'est pas correct. Un homme essaie de dominer sur nous tous. Et ainsi, ils ont essayé de faire démarrer une organisation ensemble. Ils se sont présentés devant Moïse et Aaron, que Dieu avait choisi pour leur travail, et leur a dit qu'ils ont pris trop sur eux-mêmes, que toute l'assemblée était sainte et qu'ils avaient le droit de... On trouve le salut dans le grand nombre des conseillers, bien sûr, disent-ils. Cela ne s'applique pas au christianisme. C'est pour la guerre. Remarquez, il y a beaucoup de différences. Vous pouvez prendre une écriture et dire « Judas est allé, il s'est pendu et vous allez faire de même, si vous le voulez. » Mais cela ne veut pas dire que c'est vrai. Dieu avait choisi Moïse. Et Dieu avait choisi Aaron. Et c'était le message de cette époque. Et peu importe à quel point l'autre partie avait l'air attirant, c'était contraire à la pensée de Dieu. Et nous devons laisser la pensée de Dieu être notre pensée, que l'Esprit qui est en Christ soit en vous. Et cette Bible révèle la pensée de Christ. Et le livre entier de la révélation, appelé l'Apocalypse, est la révélation de Jésus-Christ. Et nous pouvons voir comment il condamne la chose, comment il la place d'un côté. Ils arriveront après un moment. Très bien. Corée, je crois qu'il était sincère dans ses actions. Je crois que l'homme ne l'a pas fait, n'a pas voulu faire de mal. Je crois que c'était l'ignorance de l'homme qui n'a pas vu la main de Dieu là-dedans. Et connaître les Écritures, et c'est la raison pour laquelle il a raisonné. C'est à peu près 90% des problèmes d'aujourd'hui que nous essayons d'injecter dans le programme de Dieu notre pensée. Et nous ne sommes pas censés penser du tout. Il pense pour nous. Nous sommes censés abandonner notre pensée à sa volonté. Vous comprenez maintenant? Corée, avec de bonnes intentions, a fait le tour avec une fausse doctrine, disant à ses frères et leur montrant par la raison que Dieu n'avait pas seulement béni Moïse, le prophète, le messager, et qu'il avait seulement béni celui-ci, mais toute la congrégation était sainte, il a dit. Et maintenant, toute la congrégation a le droit de faire ceci, et toute la congrégation a le droit de faire ça. Et ainsi, ils ont eu des hommes bons, les Lévites. Maintenant, ça, c'est le choix de Dieu, qui serait appelé aujourd'hui les ministres. Le Lévite était le ministre du Temple. Moïse ne les a-t-il pas appelés pour ça? Et ici, il n'y est jamais allé irrévérencieux. Il leur a dit de prendre des encensoirs et d'y mettre du feu sacré et de mettre l'encens sur le dessus et d'agiter ce saint encens qui était le commandement de Dieu. Et ils sont montés pour former un groupe d'hommes pour contrôler l'Église où Dieu avait commandé à un seul homme de le faire. Et quand ils ont fait cela, Moïse est tombé sur sa face, car il savait que Dieu l'avait commissionné pour ce travail. Et Dieu a dit, demandez-leur d'amener ces encensoirs ici devant le tabernacle. Et alors, quand ils commencèrent à agiter leur encensoir rempli de feu et que l'encens s'en échappait, Dieu dit à Moïse et à Aaron, Séparez-vous d'eux. Sortez du milieu d'eux. Car plus tard, il les a appelés pécheurs incroyants. Et le péché est l'incrédulité dans la parole de Dieu. Vous volez parce que vous ne croyez pas. Vous mentez parce que vous ne croyez pas. Vous commettez l'adultère parce que vous ne croyez pas. Si vous étiez croyant, vous ne le feriez pas cela. Il n'y a que deux robes. C'est la foi ou l'incrédulité. Vous êtes contrôlé par l'un ou l'autre. Or, au commencement, Dieu était la parole et il a été fait chair et a habité parmi nous. Il était la parole, il est la parole, et quand Dieu habite en vous, c'est la parole de Dieu qui habite en vous, où vous pouvez ponctuer tout ce qu'il dit avec un « Amen ». C'est Dieu qui habite en vous. Maintenant, si vous remarquez, ces hommes innocents, avec des encensoirs à la main, un feu sacré à la main, Dieu a ouvert la terre et les a avalés et les a séparés de Moïse parce que Moïse s'est séparé d'eux. Et Moïse a averti la congrégation. Ne perdez pas de temps avec cette sorte de groupe. Éloignez-vous d'eux. Maintenant, vous connaissez les Écritures. Lisez le chapitre 16, 17, 18, même, et vous le trouverez. Séparez-vous de ces pécheurs incrédules. Sortez du milieu d'eux, car ils se dirigent vers la destruction. Et tout ce qu'ils possèdent, et quand la terre en jachère tomba avec ces hommes qui portaient le Saint-Feu, des hommes innocents séduits par l'homme. C'est la même chose d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes innocents qui tombent dans le piège de la tradition tenant la sainte parole dans sa main. Et supposément qu'il en prêche le contenu. Je viens de voir une expression passer sur le visage d'un ministre. Un ministre méthodiste était un pasteur méthodiste jusqu'à dimanche soir dernier. Et quand il a regardé, je suppose que cela signifie beaucoup pour vous, mon frère, de sortir. Maintenant, voyez, tenant des encensoirs du feu brûlant, de la douce saveur odorante devant Dieu, et ses mains tenant cela, mais ils ont péri avec l'encensoir dans leurs mains parce qu'ils essayaient de faire quelque chose avec sincérité, pourtant contre la parole de Dieu, essayant de faire une organisation. Il a dit, « Prenez trop sur vous. Qui es-tu pour dire que tu as toute la parole de Dieu? » Ils ont échoué de voir que Moïse était le messager de cette heure. Voyez, il avait ainsi dit le Seigneur. Il n'y avait personne sur terre comme lui. Il avait le message et les gens ne l'ont pas vu. Et Moïse était exactement avec ce que dit l'ainsi dit le Seigneur. Certainement, très bien. Maintenant, nous trouvons la même chose aujourd'hui. De bons hommes, les grands hommes, des hommes précieux, essayant de prêcher la parole de Dieu entre leurs mains à travers une tradition faite par l'homme. Retranche ici, et nous en faisons ceci, et venez rejoindre l'Église et changer votre adhésion et mourir spirituellement avec cette parole dans leurs mains. Voyez? Ils ne pouvaient pas croire le message de Dieu ou son message de cette époque-là. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi un grand Dieu ne travaillerait pas avec tout un groupe de personnes et le mettrait sur un seul homme. Combien d'entre eux ai-je parlé aujourd'hui? Que ferons-nous, frère Branham? Nous savons que vous avez raison, mais que ferons-nous? L'organisation va nous faire sortir, nous n'aurions pas d'autre endroit où aller. Ça me fait de la peine pour eux, mais il y a un endroit. Vous dites... Eh bien, nous mourions de faim. David a dit une fois, j'étais jeune et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné ni sa semence mendier pour du pain. C'est exactement sur la même base qu'ils ont refusé Jésus. Ils étaient tellement pris dans leur dénomination et les saints prêtres et les édifices sacrés, les églises saintes et les temples sacrés, ils ont failli de voir Dieu dans son temple humain. Toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Voyez? Ils étaient tellement pris là-dedans. Ces hommes étaient tellement épris de cela que Dathan et les autres avaient raison. Nimrod était tellement épris qu'il a pu réaliser quelque chose qui amènerait les gens au-dessus de la colère de Dieu. Adam était sûr que s'il couvrait sa nudité, Dieu ne pouvait pas le voir. Vous ne pouvez pas le couvrir, Dieu doit le couvrir. Voyez? Voyez? Le programme de Dieu le couvre, pas le vôtre. Cela a toujours été ainsi. Ils faillissent de voir Jésus dans son temple. Dieu manifesté dans la chair. Aujourd'hui, cela me fait tant de peine quand je vois que les paroles de la Bible ont été tellement retranchées par les traditions et les gens sincères qui se tiennent là et entendent cette parole, ils savent que c'est la vérité, mais ils n'osent pas bouger car leur tradition leur enseigne différemment. Continuez à laver les casseroles et les chaudrons, frères. Allez-y. Mais pour nous et pour moi et ma maison, nous prenons Christ, la parole. Voyez? Prenons Jean 3, juste un instant. Nicodème, un maître et dirigeant d'une grande dénomination appelée le Sanhédrin. Ils se sont réunis, ils ont créé leur tradition, l'un des pharisiens et l'un des sadducéens, ils avaient alors leur dénomination, leur divergence, et ainsi, cet homme était un docteur, un dirigeant de ce grand Sanhédrin, un homme merveilleux dans l'enseignement, connaissait les Écritures, pensa-t-il, il le savait par leur tradition. Jésus n'a-t-il pas dit, vous avez par vos traditions rendu les commandements de Dieu sans effet? Voyez, à cause de leur tradition, qu'est-ce que cela veut dire? Ils placent leur propre interprétation dans la parole au lieu de ne pas altérer ce qu'elle dit. Ils disent que ça ne veut pas dire cela. Avez-vous remarqué, c'est la même voix que le diable a utilisée avec Ève pour démarrer la première organisation, voyez? Certainement que ce sera de cette façon. Dieu ne ferait pas ça, tu sais. Voyez, c'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, nous remarquons que ce jeune chef est venu à Jésus. La première chose, maintenant, il vient à la recherche de la vie éternelle. Il vient à la recherche du salut. Pourtant, un homme de sa trempe, un docteur en Israël, mais un docteur en Israël vient à un homme que nous n'avons aucun registre qui soit allé même une journée à l'école. Un vieil homme, un vieux prêtre, sage, vient voir un jeune homme, aristocrate qu'il était. L'homme riche vint à un mendiant qui n'avait pas de place pour poser sa tête. Pour lui demander le chemin du salut et de la vie. En premier lieu, les gens de ce Sanhédrin, a ainsi avoué Nicodème, ils avaient vu quelque chose en Jésus que les autres hommes de leur organisation n'avaient pas. Ils ont vu qu'il avait quelque chose en lui. Parce qu'il a dit, « Rabbi, nous savons que tu nous... » Oui, il ne l'avouerait pas parce qu'il serait expulsé. Voyez, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons que... Oh là là! Les organisations. Maintenant, nous Remarquons que Jésus était une manifestation de Dieu. Maintenant, aucun homme ne peut faire ces choses si Dieu est avec lui. Il savait qu'il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Il était la lumière du jour. Il était le témoin de Dieu. Corée aussi a vu la même chose en Moïse. Il n'avait pas un homme à cette époque comme Moïse. Il était le témoin divin de Dieu, de cette époque, à la puissance de Dieu. Corée et son groupe l'ont vu dans Moïse. Ils ont compris que cela ne pouvait pas être Moïse. Moïse ne pouvait pas ouvrir la mer Rouge. Moïse ne pouvait pas envoyer de plaies sur la terre. C'était Dieu en Moïse. Et parce que Dieu qui s'est représenté dans un témoin ou une lumière du jour, ils ont failli de le voir. Corée voulait faire tout un groupe d'hommes accepter n'importe quoi. C'est ce qu'à quoi là, une bonne organisation acceptait toutes les racailles qu'il y a, appeler ça le christianisme. Envoyer un garçon à l'école qui n'en connaît pas plus que Dieu, que notre entourage n'en connaît au sujet d'une nuit égyptienne, l'envoyer là-bas et lui donner une éducation, lui apprendre la psychologie, lui donner un doctorat, baccalauréat ou quelque chose comme ça, et l'envoyer pour prêcher l'Évangile qui n'a jamais été sauvé, qui nie la naissance virginale et la résurrection, qui nie la guérison divine, ni la puissance de Dieu, ni les principes même pour lesquels Jésus est mort, ni que Marc 16 est inspiré, ni ces signes accompagneront ceux qui auront cru quand Jésus a dit ses paroles lui-même, ni Acte 2, 38, ni tout le reste des Écritures qui sont inspirées, essayer de prendre une tradition d'homme dont ils ne connaissent rien et de jouer avec elle, quand vous leur dites la vérité et leur montrez la vérité, ils ont honte de bouger à cause de leur organisation. Corée a fait la même chose. Il a vu Dieu en Moïse. Il a vu que c'était l'argent de Dieu travaillant à travers lui, l'agent de Dieu. Et Nicodème a vu Dieu en Christ. Personne ne peut faire ces choses, sauf si Dieu est avec lui. Nicodème était déjà dans l'organisation, essayant de sortir. Corée était à l'extérieur, essayant d'entrer à l'intérieur. C'était ça la différence. Nicodème essayait de trouver le salut, de sortir de la chose. Il était depuis un garçon, il en avait assez, il voulait être sauvé, mais Corée essayait de faire de lui un endroit où il pourrait être un gros bonnet. C'est comme ça avec les gens aujourd'hui. C'est le problème avec le christianisme. Nous avons eu tellement de fausses imitations. Et nos pentecôtistes, excusez l'expression, en sont remplis de comparaisons charnelles. Laissons Dieu susciter un homme et lui donner quelque chose, et tout le monde dans le pays essaiera d'imiter cette personne. Vous ne réalisez pas que vous tuez votre propre équipe? Lorsque vous jouez au football, et la grâce, comme Paul l'aurait dit, laissez-nous courir cette course avec patience. L'homme qui a le ballon, ne lui retirez pas des mains, essayez de le protéger, mais au lieu de cela, parce qu'il n'appartient pas à votre organisation, vous essayez de lui enlever. Un homme si maladroit, il le pouvait, il s'enfonce dans les fleurs du tapis, et ensuite il essaie de vous l'enlever. C'est vrai. Maintenant, parlant spirituellement, je veux dire, excusez-moi, eh bien, il va s'enfarger sur une petite chose comme Acte 2, 38, c'est certain qu'il va tomber. S'il tombe sur Marc 16, comment va-t-il y arriver? Vous voyez? Très grande leçon de Christ. Et la chose même qui a été discutée lors du conseil de Nicée, il trébuche encore là-dessus après toutes ces années. Corée essayait de faire une organisation pour y entrer, et Nicodème était à l'intérieur essayant d'en sortir. Nicodème a été accepté et en est sorti. Corée, il périt dans son effort, il a péri dans ses propres efforts. Oh là là! L'organisation dans laquelle se trouvait Nicodème savait que Christ était envoyé de Dieu. C'est ce qu'il a dit lui-même, Nicodème, dans le troisième chapitre. Confesse ceci, « Rabbi, Nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car aucune personne ne peut faire les miracles que tu fais sauf si Dieu n'est avec lui. Et le même groupe, en raison de leur organisation, l'appelait Belzébuth à cause de sa puissance pour chasser les démons. Il a dit, il séduit nos gens par sa doctrine. C'est la même chose aujourd'hui. Séduire quoi? Jésus a dit, je fais seulement ce qui plaît au Père. Je garde seulement les paroles de Dieu parce qu'il était la parole. Il ne pouvait rien faire d'autre que la parole. Mais à cause de leur organisation, à cause de leur voix, ils avaient des hommes sous leur emprise, dans leur cœur, ils le savaient. Mais leur organisation ne les laissait pas la garder. Ensuite, pour fuir, pour empêcher les gens de quitter l'organisation, tous les hommes le suivaient. Pour empêcher les gens de quitter l'organisation et de suivre la vérité de Dieu, dont il était la vérité, je suis la vérité, la lumière. Pour les empêcher de suivre cela, ils ont dit qu'ils trompaient les gens. Pensez-y, un homme qui dans son cœur savait qu'il était Dieu, que Dieu était en lui. Personne ne peut dire ces choses ou faire ces choses à moins que Dieu ne soit avec lui. Sachant cela et disant cela et confessant cela, puis se retournant et l'appelant Belzébul et un trompeur du peuple, leur peuple dans sa, par sa doctrine. Oh là là! Nicodème savait qu'il était un prophète. Alors, c'était un membre de l'organisation qui aimait et qui craignait suffisamment Dieu pour reconnaître par l'Ancien Testament que cet homme avait les qualifications et était prouvé et confirmé un prophète envoyé de Dieu. L'homme, je vais l'honorer s'il venait la nuit, il y est allé. Il est beaucoup mieux que beaucoup de nos enseignants aujourd'hui. Ils ne viendront pas du tout. Nicodème est finalement arrivé, donc ne condamnez pas si vous n'êtes pas encore arrivé. Nicodème savait qu'il était un prophète. Alors, il craignait Dieu. Il n'allait pas laisser cet homme s'éloigner de lui. La lumière de ce jour-là, peu importe combien c'était contraire, à quel point son organisation disait que c'était contraire, il a vu Dieu confirmer cet homme et il savait qu'il était un prophète. Et s'il était prophète, la parole du Seigneur vient au prophète. Il savait de quoi il parlait, voyez? Alors, il est allé à Jésus. Il voulait savoir comment obtenir le salut. Si cet homme était un prophète, la parole de Dieu était avec lui, il connaîtrait la voie du salut. Mais ce que Nicodème devait apprendre, est ce que beaucoup de gens aujourd'hui, des dénominations de ce jour, doivent apprendre. Ce que Nicodème aurait dû savoir, c'est que les gens d'aujourd'hui devraient savoir de cette dénomination. Il était plus qu'un prophète. Il est venu à lui pour découvrir, lui demander quel est le chemin de la vie, et Jésus lui-même était la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Donc, il n'a pas pu venir pour essayer d'apprendre un enseignement. Il devait venir pour accepter la personne. C'est ça, ce soir. La pierre angulaire est à nouveau rejetée. Qu'est-ce que la pierre angulaire? C'est la parole, bien sûr. Christ, il a la parole. Il devait apprendre quelque chose. Il a pensé, eh bien, maintenant, cet homme est un prophète. Il est juste un prophète. Alors, avez-vous remarqué? Jésus n'a jamais répondu à sa question. Il a juste réprimandé pour sa cécité. Plus qu'un prophète. Il était la parole et la lumière brillante de la parole. C'était Dieu qui brillait à travers un instrument prouvant que c'était Dieu dans l'homme. Il était la parole. Jean, le premier chapitre, Jean, au premier chapitre plutôt, cela dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et voici la parole de Dieu qui brillait à travers ce petit corps fragile d'un homme et qui a aveuglé l'organisation. Mais il vient chercher des individus. Plus qu'un prophète. Il était la parole. Il est la vie. Non, il n'était pas obligé de vous enseigner une certaine vie à venir. Il était cette vie-là, il était la vie. Il était la lumière. Il était la vie. Il était la vie éternelle. C'était en lui et lui seul est le donateur de la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Donc, vous ne pouvez pas simplement avoir la parole qui enseigne à son sujet, vous devez l'avoir lui. Vous dites, oh, les gens s'assoient et apprennent cette Bible et tous les mots en grec, ce que sont les définitions, les ponctuations, et ainsi de suite. Ils n'en savent pas plus sur Dieu que rien du tout. Voyez? Non. Celui qui a le modèle, celui qui a le plan, c'est celui qui a le Fils, qui a lui, la personne. C'est celui qui a la vie. Nicodème savait qu'il connaissait la vie, mais il n'avait jamais su qu'il était la vie éternelle. C'est ce à quoi l'homme à qui il parlait, le messager, la lumière du jour, la lumière du monde. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il a été envoyé aux siens, les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement organisés, établis dans le lavage des casseroles, des chaudrons et des traditions, qu'ils ont manqué de voir la parole faite chair. Ça se répète à nouveau. L'histoire se répète de temps en temps. Oui, il savait qu'il connaissait la vie. Mais Nicodème ne savait pas qu'il était la vie. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Tant de gens essaient de faire de Jésus, oh, un grand acteur. Il essaie même de dire qu'il était un prophète. Mais quand vous essayez de dire qu'il était Dieu, c'en est trop, voyez. Mais il était Dieu, et il est Dieu, et il sera toujours Dieu. C'est tout, c'est vrai. Remarquez. Il n'a jamais dit à Nicodème, maintenant, quand il est venu à lui, il n'a jamais dit, maintenant, Nicodème, j'ai beaucoup de respect pour toi, car tu es un docteur d'Israël. Je vais te dire ce qu'il en est. Tu cherches la vie éternelle? Peut-être devrais-tu raffiner tes études. Tu ne prononces pas tes mots correctement. Absurde. Ou bien peut-être devrais-tu chercher une fonction supérieure dans ta dénomination pour avoir la vie éternelle. C'est ce que tant de gens ont essayé de faire aujourd'hui. Une fonction supérieure, ils veulent devenir pasteur ou surveillant général ou encore évêque ou quelque chose du genre. Cela n'a pas plus à voir avec Dieu que rien du tout. Regardez ce qu'ils avaient devant une telle personne. Il l'a réprimandé car il ne savait pas à quelle heure il vivait. Tu veux me dire que tu es un docteur d'Israël? Et tu ne peux pas comprendre cette chose quand il a dit « un homme doit renaître ». Pourquoi il a dit « moi, un vieil homme, entré dans le ventre de ma mère ». Il a dit « es-tu un évêque, un cardinal, un surveillant général dans l'église pentecôtiste ou quelqu'un d'autre, quelqu'un d'important dans l'organisation ? Et tu ne connais pas les Écritures ?» Oh, nous avons Moïse. S'il connaissait Moïse, il m'aurait connu, car c'est lui qui a parlé de moi. Voyez? Mais pas selon leur tradition, leur organisation, c'était différent. Mais Moïse avait parlé de lui. Il était celui dont Moïse avait parlé. Et pourtant, ils ne le savaient pas. Pourquoi? Ils sont tellement attachés à leur tradition, ils ne le savaient pas. Et mes frères qui lisent, qui prennent cette bande, ne l'éteignez pas maintenant. Attendez une minute. Regardons cette chose en face. Je vous aime. Vous êtes un berger. Et je ne sais pas de montrer ce que je sais. Je laisse cette impression. Alors arrêtez la bande et priez pour moi. J'essaie seulement de vous apporter quelque chose qui est la vérité. Ne laissez pas passer à côté de vous. Maintenant, je respecte l'ordre des hommes, et ainsi de suite. Mais quand vous faites ces organisations, regardez les pharisiens, cela n'aura rien à voir avec les sadducéens, car les sadducéens ne croyaient pas ni aux anges, ou à l'esprit, ou à la résurrection, ou quoi que ce soit, et les pharisiens possédaient les deux. Ils étaient en guerre les uns avec les autres. Maintenant, les unitaires croient une chose, les trinitaires en croient une autre, les méthodistes une autre, les presbytériens une autre. Vous tracez de petites lignes de démarcation, et qu'est-ce que vous avez? Une séparation de la fraternité. En passant, nous trouvons cet endroit dans la Bible d'ici peu, ce que c'est et ce que Dieu dit que c'est. Bon. Non, il ne lui a jamais dit se raffiner. Il lui reprochait simplement de ne pas avoir la vraie chose. Es-tu un docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses? Si je vous ai dit des choses terrestres et vous ne pouvez pas comprendre, pensez. Un docteur, un ordre élevé dans une église orthodoxe, un évêque, un cardinal, et vous ne pouvez même pas comprendre les explications simples des choses naturelles que je vous dis. Comment allez-vous comprendre les choses spirituelles du ciel? Mais un vieux pécheur ignorant qui ne peut même pas écrire son propre nom l'a compris, voyez? Et a été nommé chef de l'Église de Jérusalem, Pierre, vous voyez? Oh, tous ceux que le Père m'a donné viendront, vous voyez? Ils le voient, ils le croient, ils agissent en sachant que rien ne va les retenir. Tout comme l'agriculteur. Ce n'est pas agréable de plaisanter, mais faisons une petite illustration. Ils ont dit qu'un agriculteur avait une poule et qu'il n'avait pas assez d'œufs. Il a mis un œuf de canard en dessous. Lorsque le petit canard a éclos, il était la chose la plus drôle que les poulets n'avaient jamais vue. Il avait une drôle de tête allongée, il s'est mis à cancaner au lieu de caqueter, et les poulets mangeaient tous et picoraient dans la basse-cour, et ce n'était pas son régime, exactement. Alors, un jour, la vieille poule se conduisait derrière la grange pour attraper des sauterelles, et au-dessus de la colline se trouvait un lac, et le vent se leva du lac, et il sentit l'eau. C'était juste sa nature. La vieille poule a dit, « Cote, 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 reviens. » Il a dit, « Quack, 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 jusqu'à l'eau. » Pourquoi? C'était un canard pour commencer. Peu importe à quel point la poule caquetait, il était toujours un canard. Et c'est comme ça chez un homme prédestiné à la vie éternelle. Quand il voit la lumière de Dieu, il n'y a pas assez d'organisation dans le monde pour le retenir là-dedans. Non, pourquoi? C'est sa nature. Il a peut-être suivi un régime pendant longtemps avec eux, mangé leur ordure et leur vie sociale, mais il vient à un endroit où il a trouvé quelque chose de différent. Alors il le sait. « Mes brebis connaissent ma voix », a déclaré Jésus. « Elles ne suivront pas un étranger. » Elle pourrait suivre quelque chose d'étrange, mais en elle, il y a quelque chose de différent. Laissez-la entendre la vérité une fois et observez-les. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Oui, il l'a réprimandé de ne pas savoir. Tu es un docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Tu dois naître nouveau. Maintenant, l'homme naturel, je veux vous remarquer quelque chose ici. Vous devez naître de nouveau. Maintenant, la vie naturelle, si nous avons la vie naturelle, pour être actif dans cette vie naturelle, dans les choses naturelles, nous devons avoir une naissance naturelle. Ne se contente pas de vous secouer d'un arbre quelque part, vous voyez, de vous sortir d'une façon ou d'une autre. Ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Il faut que ce soit une naissance réelle, une naissance naturelle, pour que vous soyez actif, afin que vous puissiez avoir les cinq sens, marcher, parler, voir, goûter, toucher, sentir, entendre, bouger, ainsi de suite, car vous êtes un être humain, et vous êtes sujet à toutes ces choses, parce qu'elles font partie de la vie naturelle. Et dans une telle naissance, parfois, nous devenons très sages, dans la sagesse du monde, ou dans les affaires du monde. Nous devenons des présidents, de grands érudits, des maîtres mécaniciens, des scientifiques, et ainsi de suite. Vous savez toujours, dès le début, ce sont les enfants de Caïn qui ont eu ce genre de sagesse. pas ceux de Seth, qui étaient d'humbles bergers. Mais les enfants de Seth étaient des personnes pieuses, mais les enfants de Caïn étaient toujours intelligents, hauts, scientifiques, médecins et de grands hommes. C'est vrai, la Bible le dit, vous savez, elle enseigne cela, et très religieux, mais ils ont péri à la fin. Nous devenons sages en allant à l'école, en étudiant, et ainsi de suite. Nous devenons très sages, intelligents, et pouvons faire des choses et dire des choses, et parfois surpasser en parole un homme qui est rempli de l'esprit. Jésus n'a-t-il pas dit, « Les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume? » Bien sûr, parce que leur intelligence, ils peuvent parler et être plus perspicaces et surpasser en parole et prendre les Écritures et les tordre pour leur faire dire des choses qu'elles ne disent pas. Oh, ça ne veut pas dire exactement ça. Quand un homme dit cela, éloignez-vous de lui. Dieu veille sur sa parole, vous savez, c'est ce que dit la Bible. C'est écrit comme il se doit, voyez. Maintenant, c'est mis de telle manière à tromper ou à faire trébucher le sage, c'est si simple. C'est la raison pour laquelle il trébuche dessus, voyez. Très bien. Toutes ces sagesses et tout ce qu'ils peuvent accumuler, mais cela vient, cette naissance vient d'en bas, de cette terre. C'est de la terre. Et c'est contre l'Esprit de Dieu. La première naissance, pour nous rendre actifs ici, fait de nous l'homme mortel à cause de l'acte de péché dans le jardin, fait que l'homme vient au monde par une femme. Et un homme né d'une femme est de quelques jours, mais un homme né du Christ est éternel. Job a dit, un homme qui est né d'une femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Remarquez, mais un homme né de Christ doit naître d'en haut. Maintenant, mais un homme né de la terre devient sage et peut presque surpasser en intelligence. Regardez comme le diable a été rusé. Il a trompé tous les prêtres qui sont venus sur terre. Il l'a certainement fait. Il a trompé. Il le fait encore. Oui, bien sûr. Il est intelligent. Mais il s'est heurté à son adversaire un jour, qui l'a vaincu. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est de simplement nous appuyer sur lui. Il l'a déjà vaincu, vous voyez? Mais ça vient d'en bas. Et cette sagesse que l'homme accumule pour prouver et montrer toutes les choses pour lesquelles l'homme devait faire ceci et que l'homme devrait faire cela, c'est contraire et hostile, l'esprit charnel, à Dieu. Les Écritures l'ont dit. Voilà. Peu importe comment ils sont intelligents, ils peuvent les tordre. Je veux que quelqu'un me montre où Dieu a eu une organisation. On n'a jamais ordonné une sans que la Bible le condamne. Peu importe à quel point ils peuvent essayer d'être intelligents, c'est contraire. Comment la sagesse peut se tenir à se comparer à vous et vous faire sentir si petit en parlant, mais c'est contraire aux Écritures. Quelqu'un m'a dit, « Frère Branham, il y a une chose que j'ai contre vous. » Il a dit, « Vous êtes un Jésus seul. » J'ai dit, « Je ne suis pas. Je ne fais pas partie d'aucune organisation. » Un prêtre d'un certain état a envoyé l'autre jour, il a dit, « Quelqu'un m'a dit que vous étiez un Jésus seul, frère Branham. » J'ai dit, « C'est le contraire, c'est faux. » Ils ont dit, « Vous croyez à l'amour libre, que les hommes devraient quitter leur femme et courir, mais maintenant, vous voyez, ce ne sont que des mensonges du diable, vous le savez. » J'ai dit, « Je suis absolument contre de telles choses non scripturaires. » Je crois en la sainteté et la pureté. Je crois que l'homme est lié à sa femme aussi longtemps qu'il vive. Vous ne devriez pas l'apprendre sans prier en premier. Et les Jésus seuls, le groupe des Jésus seuls, rien contre eux. Ils sont aussi bons que n'importe quel groupe pour moi. Mais ils baptisent mal. Ils baptisent pour la régénération. Je crois que nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, pas par l'eau. J'utilise le nom de Jésus-Christ dans le baptême. Il n'y a pas d'autre écriture dans la Bible pour dire le contraire. Il n'y a personne dans la Bible qui ont été baptisés d'une autre façon qu'au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Je veux que quelqu'un vienne me montrer un endroit où une personne a été baptisée comme ça. Alors, si ce n'est pas scripturaire, arrêtez de le faire. Vous dites, ça n'a fait aucune différence. Ça en faisait pour Paul. Il leur a ordonné de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ, puis de recevoir le Saint-Esprit. Et Paul a dit, si un ange du ciel, Galates 1:8, venait enseigner un autre évangile que celui qu'il avait enseigné, qu'il soit anathème. Voyez, c'est la tradition. J'ai parlé à un grand homme il n'y a pas longtemps. Il a dit, frère Branham, je ne peux pas. Je sais que c'est vrai, mais qu'est-ce que je puisse faire à ce sujet? J'ai dit, obéis-la. Eh bien, j'ai du prestige parmi nos gens. J'ai dit, mais je veux du prestige avec Dieu. Alors, obéis à sa parole. Vous devez choisir. Allez-vous servir Dieu ou l'homme? Mais ils ont leur organisation, ils placent ces déclarations et les suivent. La première fois que ça est utilisé, c'était dans l'Église catholique romaine. C'est vrai. Je veux que quelqu'un me montre quelque chose de différent. Je lis l'histoire aussi, vous savez. Alors, rappelez-vous, c'est un baptême catholique et tous ceux qui sont baptisés de cette façon sont baptisés dans la communauté catholique. Je le prouverai avant la fin de la soirée, si le Seigneur le veut, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle vous devez revenir. Pas les Jésus seuls. Maintenant, il y a beaucoup de bons hommes dans l'Église des Jésus seuls, beaucoup d'hommes perspicaces dans les assemblées de Dieu, l'Église de Dieu, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques. Mais aucune d'elles n'est l'Église. Aucune d'entre elles. Il y a des personnes qui font partie de l'Église, mais ce n'est pas la dénomination qu'ils ont reçue qui en fait l'Église, comme les hommes essaient de le faire. C'est faux. Juste une minute, vous regarderons cela en vous donnant quelques écritures dans quelques instants. Oui, pour être actif sur la terre, il faut naître naturellement pour être actif. Et une telle naissance nous rend sages, comme je l'ai dit. Voyez, nous devenons intelligents, brillants. Notre intelligence nous donne cela. Mais rappelez-vous que cette naissance, le tout début, est contraire. C'est terrestre et contraire à la parole de Dieu, insensé pour Dieu et son plan, ignorant le plan de Dieu. Si ce n'était pas le cas, Nicodème aurait eu plus de connaissances que ce que Jésus en savait. Voyez? Es-tu un docteur d'Israël? Voyez? Voyez où se dirigent vos dénominations, où se trouvent vos grands hommes intelligents qui se réunissent et élaborent leur plan? Laissez-moi vous dire ceci, chaque fois que Dieu envoie une lumière sur la terre, sur quelque chose dans l'Écriture, il court tout de suite avec ça, et dès que cet homme est parti, ils en font une organisation, et dès qu'il l'organise, je veux demander à n'importe quel historien, ici présent ou sur bande, de venir me montrer, à n'importe quel moment de l'histoire, à organiser une église, elle est morte immédiatement, et ce n'est jamais relevé. C'est contraire à Dieu. C'est contraire aux Écritures. Par conséquent, je suis contre cela. Tout ce qui est contre Dieu, si Dieu est en moi, alors je suis contre ce que Dieu est contre aussi. Son ennemi est mon ennemi. Son Église est mon Église. Sa vie est ma vie. Il a donné sa vie, il est devenu moi pour que par sa grâce, je puisse devenir comme lui, voyez? Nous avons échangé nos places. Il est devenu un pécheur comme moi, et mort pour moi à ma place, afin que je puisse être un fils de Dieu comme il l'était. Or, vous voyez déjà maintenant où en sont vos dénominations? Nous n'avons pas commencé. Sage, dans la sagesse du monde, mais morte selon le plan de Dieu. Maintenant, revenons en arrière. Arrêtons ici un instant. Adam était contraire au plan de Dieu, car il avait désobéi à la parole. Il a essayé de se faire une couverture, une religion. Cela a échoué. Ça échouera toujours. Ce que l'homme essaie de faire, Nimrod avait tort. Corée a péri. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Former une organisation. Et après cela, quand ils se sont finalement organisés, Jésus les a trouvés morts. Il a dit, vous avez des yeux et vous ne pouvez pas voir. Vous avez des oreilles et vous ne pouvez pas entendre. Voyez, il a dit, vous êtes aveugle et vous dirigez des aveugles. Si l'aveugle conduit l'aveugle, ne tomberait-il pas tous deux dans la fosse? Il a dit, tu es un docteur d'Israël et tu ne peux même pas comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Eh bien, si vous étiez abstenu de cette tradition pour vous en tenir à la parole, vous auriez su que je venais vous donner la nouvelle naissance aux hommes. Vous auriez connu mon jour. Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu. Moïse a parlé de moi. Et il a dit que j'allais venir, et me voici. Et si je ne fais pas ce que Moïse et les prophètes ont dit que je ferais, alors ne me croyez pas. Si je ne fais pas les œuvres de Dieu, alors ne me croyez pas. Mais si vous ne pouvez pas me croire en tant qu'homme, si vous ne pouvez pas me croire parce que je suis un homme et que je fais les œuvres de Dieu, croyez que les œuvres, car elles témoignent des choses que je fais. Mais alors, comme aujourd'hui, s'ils vivaient sur la terre aujourd'hui, les assemblées de Dieu en auraient un, les unitaires en auraient un, et tout le monde en aurait un, Jésus. Bien sûr, la dénomination doit transporter le ballon. Vous voyez, s'ils ne la transportent pas, alors ils ne se joignent pas à ses parents, la fraternité. Je me souviens d'un petit garçon nommé Petit David. C'est un homme marié maintenant, je pense qu'il a une famille. Je me souviens quand il a commencé, je suis allé à Saint-Louis, j'ai entendu parler de petits prédicateurs qui s'étaient levés là. Il avait dit, j'ai vu un petit garçon né dans une crèche, maman c'était quoi la suite? Mais pas ce petit garçon-là, il expulsa son manteau, prit un texte et prêcha. Mais qu'était-il? Il se trouvait que c'était un Jésus seul. Son père, M. Walker, faisait partie des Jésus seuls. Or, les assemblées ne pouvaient pas supporter ça. Il devait aussi se trouver un petit David. Eh bien, les autres aussi devaient se trouver un petit David. Et une fois que le petit garçon tenait une réunion en Floride, il m'a appelé pour que j'aille l'aider. Et Frère Moore et moi avons lu deux pages du début du journal où on ne parlait que de petit David. Chaque église avait un petit David. Oh, miséricorde! Oh, si un groupe d'anciens de Dieu avait reconnu le don dans ce petit bonhomme, il aurait amené des milliers d'âmes dans le royaume. Voyez? On lui disait d'oublier sa tradition à propos de l'homme et de ses choses. Dieu a mis un don dans sa vie. Utilisez-le. Lorsque la guérison divine a été présentée, puis la première fois, tout le monde avait une sensation dans leurs mains. Ils pouvaient ressentir les maladies. Et oh là là, pourquoi ils devaient le faire? Leur organisation était en retard dans la course. Vous voyez, vous mettez vos organisations en avant du plan de Dieu. Vous y croyez. Mais Dieu a son Église qui avance de toute façon, un corps mystique. Vous ne joignez pas cela, vous y naissez. Sage selon le monde, mais mort en ce qui concerne les plans de Dieu. Dites-moi alors. Vous pouvez leur dire et leur prouver qu'ils ont tort par la parole de Dieu et les promesses, et ils ne verront toujours pas. Je peux m'asseoir et prendre la parole, puis vous montrer que la dénomination est fausse. Je peux vous montrer que les credos que vous avez aujourd'hui sont faux. Voyez, ces credos d'Église. Montrez que c'est faux, ils vont dire, eh bien, on a enseigné à croire ceci. Voyez, à mon avis, c'est de la chair à canon. Si vous savez de quoi dont je parle, de la chair à canon, oui, c'est vrai. Ils ne peuvent pas voir. Jésus a dit, vous ne pouvez pas voir que vous pourriez venir à moi et avoir la vie. Mais il y avait Nicodème, un homme honorable, un grand homme, un évêque dans son église, un homme renommé, aimé de tous, qui est venu à Jésus, ne connaissait pas plus que la vie que toute autre personne. Il en était parfaitement ignorant quand Jésus le lui rapprochait. Mais il avait été sincère pour venir. Les autres ne viendraient même pas. Il restait avec les grands prêtres et avec l'évêque un tel et un tel. Vous voyez, il restait avec eux, choisissant plutôt leur tradition d'ancien que d'entendre la parole de Dieu. Maintenant, vous pouvez leur dire, ils n'écouteront pas. Vous pouvez être très exactement. Pourriez-vous imaginer, je veux vous demander quelque chose, ce n'est que je veux être irrespectueux. Maintenant, frère qui écoutez la bande, ce n'est pas que je veux être irrespectueux. Pourriez-vous imaginer sortir et qu'un nœud dans l'arbre puisse me demander, comment dans le monde peux-tu marcher comme tu le fais? J'ai la vie, je suis un nœud dans cet arbre. Il peut prouver qu'il a la vie, mais c'est le mauvais type de vie. S'il veut se promener, la façon pour lui de se promener, de voir, de goûter, de sentir, de toucher, d'entendre, s'il pouvait parler, me le dire et me le demander, le seul moyen, il faudrait qu'il soit né de la même manière que moi. Amen. Il ne le comprendra jamais autrement. Mais s'il est né de la même manière que je suis né, alors il saura les choses que je sais. Amen. Oh là là. Oui, monsieur. Vous ne pouvez pas dire au nœud dans l'arbre comment nous nous déplaçons et sommes actifs. Il faudrait qu'il reçoive notre genre de vie pour le comprendre. Même chose avec l'esprit. C'est la même chose avec l'esprit. Vous ne pouvez pas le comprendre. Il n'est pas nécessaire d'essayer de tout comprendre. Venez d'abord à lui. Car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. Il a dit, c'est de le comprendre. Vous devez naître de nouveau pour le comprendre. Eh bien, vous dites, je suis né de nouveau. Et vous niez la parole? Comment est-ce possible? Votre propre vie en donne la preuve. Le groupe auquel vous êtes associé, les oiseaux de même plumage, voyez? Attendez que nous arrivions à ces choses dans quelques minutes. Ça vient par l'esprit. Comment pouvez-vous parler aux gens des choses de l'esprit s'ils ne sont pas nés de l'esprit? Vous devez naître de l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Jésus a dit, le vent souffle là où il veut, vous ne faites pas dire de quel côté il vient ou il nie où il va. Voyez, il en est ainsi des hommes nés de l'esprit, ils ne peuvent pas vous le dire. Un homme né de l'esprit ne pense pas. Il laisse Dieu s'occuper de sa pensée. Pensez-vous que je pourrais me tenir sur l'estrade, prendre une pensée et dire à un homme, là au fond, son nom est John Doe, il vient de tel endroit, il a fait ceci, il a épousé une autre femme il y a 20 ans, puis il a eu des enfants avec cette femme, il doit mettre cette chose en ordre et faire ça. Pensez-vous qu'en pensée, je pourrais faire cela? Il n'y a pas de sagesse telle dans cette naissance-ci sur terre pour cela. C'est au-delà de cela. Elle doit venir d'en haut. Alors, quand vous êtes né de l'Esprit d'en haut, la vie qui était en lui, qui a fait ces choses, il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Votre naissance doit être changée. Vous avez été séduit. Vous pouvez avoir parlé en langue, vous pouvez avoir souti, vous pouvez avoir crié, vous pouvez avoir fait tout ceci, cela ou autre, vous pouvez avoir été un membre loyal. Nicodème l'était aussi, vous voyez? Mais il lui manquait la naissance. Quand vous niez la parole, essayez de la placer ailleurs et de faire quelque chose pour elle, de la disperser comme ça. Alors Jésus a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Aussi longtemps que l'Évangile sera prêché, ces signes suivront. Dites-moi l'endroit où il l'a déjà enlevé de l'Église. Montrez-moi l'Écriture où il a dit, déjà dit, juste au printemps, il a dit par tout le monde, toute la création. Oui, vous devez recevoir le genre de vie qu'il avait pour vivre sa vie. Quand vous verrez sa vie, alors vous connaîtrez sa parole. C'est vrai, quand il, un pronom personnel, pas une pensée, pas une imagination, pas une sensation, mais quand lui, le Saint-Esprit, sera venu, il prendra ces choses que je vous ai dites et vous les révélera et vous montrera les choses à venir. C'est la naissance, c'est la confirmation que c'est la parole. Et quand un homme dit qu'il a le Saint-Esprit, qu'il nie la parole de Dieu et la place ailleurs, comment le Saint-Esprit peut-il nier sa propre parole? Maintenant, montre-moi une organisation dans la parole. Et voilà. Très bien. Pourriez-vous? Pourriez-vous penser à un homme d'affaires? Maintenant, voici à quel point notre Église est loin derrière. Pourriez-vous penser à un homme d'affaires qui a lancé une entreprise ici? C'est vraiment une entreprise prospère. Il doit obtenir de l'aide rapidement. Il irait voir une bande d'hommes morts, de cadavres. Il dirait, voulez-vous venir travailler pour moi? Il n'y serait aucun avantage. C'est la raison pour laquelle l'organisation ne se relève jamais, voyez? Une bande de morts incrédules se rassemblant comme Nimrod, comme Corée, comme à travers les âges. Comment peut? Il ne l'a jamais utilisé une organisation. Il ne peut pas le faire. Elle est déjà en dehors de la volonté de Dieu. Elle est passée outre. Elle est hors de portée. C'est hors d'atteinte. Comment pourriez-vous aller chez un homme qui ne peut pas bouger, paralysé de la tête aux pieds, et lui dire que vous voulez qu'il fasse une course à pied pour vous, faire cette course à pied de patience, mettre de côté, vous voyez? Comment pourrait-il le faire quand l'homme ne peut même pas bouger? Il est paralysé. Vous devez enlever la paralysie de lui, premièrement. Ensuite, il pourra courir. C'est ce dont l'organisation a besoin. C'est d'une guérison divine. Oh là là. J'espère que je ne sonne pas corticueux. Voyez, je ne critique pas, mais si un clou n'est pas arrivé, il se retire facilement, voyez. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas utiliser une dénomination. Dès que ça... Souvenez-vous, je crois que Martin Luther avait le Saint-Esprit. Absolument. Peut-être pas dans la portion que nous avons aujourd'hui, parce que ça n'avait pas été donné. Nous avons vu cela, vous, les gens du tabernacle, ici, sur le tableau. Mais il croyait en Dieu et celui qui croit à la vie éternelle. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne croyait comme moi jusqu'à matin. J'écoutais Charles Fuller en venant. Il croyait aussi que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est de naître. Le Saint-Esprit est le baptême. Voyez? Très bien. Maintenant, nous voyons que cet homme doit naître de nouveau pour être en action. D'accord? Être né de la chair, alors vous avez la sagesse du monde. La sagesse du monde obéit à son enseignant charnel. C'est vrai. C'est exactement pour ça qu'un homme qui n'a pas la nouvelle naissance et qui vous parle de la parole de Dieu obéira à son évêque, à son prêtre, à son organisation au lieu de la parole de vie. Pourquoi? Il ne connaît rien d'autre que ça. Eh bien, tu sais, un jour, je pourrais être un prêtre. Eh bien, Nicodème était un docteur. C'était plus qu'un prêtre. C'était plus qu'un pasteur. C'était un docteur d'Israël. Vous voyez? Il était un grand homme. Il faisait partie de ce groupe et ne connaissait pas plus sur Dieu que n'importe quoi d'autre. Vous voyez? Tout ce qu'il connaissait, c'était l'histoire. À quoi sert un Dieu historique s'il n'est même pas le même aujourd'hui? À quoi bon le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi bon un Dieu qui pouvait sauver un homme sur une croix et qui ne pourrait pas en sauver un autre dans la même condition aujourd'hui? Comment je l'ai toujours dit, à quoi sert de donner de bonnes graines et des vitamines à votre serin pour qu'il ait de bonnes ailes fortes et de belles plumes si vous le mettez en cage? Je ne comprends pas ça. D'essayer de lui parler d'un Dieu de puissance et de ces choses, puis le mettre dans une organisation qui ne croit même pas une telle chose. Vous voyez? C'est tout de travers. C'est la raison pour laquelle ça échoue. Il est mort. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Dieu ne l'a jamais utilisé. Pensez simplement que le Saint-Esprit n'a jamais, à aucun moment, utilisé une organisation nulle part dans les Écritures ou nulle part dans l'histoire. Si quelqu'un sur cette bande, ici, présent, peut me montrer où le Saint-Esprit a pris une organisation et fait une œuvre sur la terre, venez me le dire. Je veux que me disiez de quel livre d'histoire il s'agit. Vous savez que ce n'est pas l'Écriture. Alors, je veux que vous montriez dans l'histoire d'où c'est tiré. Dieu n'a jamais rien utilisé de tel. Il utilise un individu, toujours. Très bien. Être né de l'Esprit, maintenant, pour être né de la chair et avoir la sagesse du monde, la sagesse obéira à son enseignant charnel. Être né de l'Esprit, c'est croire et obéir à l'enseignement de la Bible par le Saint-Esprit. Un homme né de l'Esprit va obéir à la parole de Dieu indépendamment de ce que lui dit une tradition. C'est simplement ça. Vous êtes né de nouveau. C'est pour ça que vous voyez, de faire partie d'une organisation, de mettre tous vos espoirs en cela. Maintenant, je ne dis pas que les membres de l'organisation ne sont pas nés de nouveau. Maintenant, je reviendrai dans quelques minutes, si le Seigneur le veut. Bien sûr, ils le sont. Mais ce sont des individus, ce n'est pas l'organisation qui est née de nouveau. Les individus dedans sont nés de nouveau. Mais l'organisation ne fait que les séparer de Dieu, c'est tout ce qu'elle fait. Elle vous sépare. Très bien. Indépendamment de la chair, la dénomination enseigne charnellement, elle est toujours contraire à la volonté de Dieu. Naître de nouveau signifie être né d'en haut. À nouveau signifie d'en haut. Je pense que vous le savez, vous voyez. Être né de nouveau signifie être né d'en haut. Maintenant, vous verrez, vous pouvez l'étudier si vous voulez dans le lexique. Vous voyez, ça signifie une naissance qui vient d'en haut. Parce que vous êtes né ici, maintenant, pour être né de nouveau, vous devez être né d'en haut. Ici, être né de nouveau. Ainsi, ce royaume est tellement plus élevé que ce royaume-ci, tellement plus grand que ce royaume-ci, au point que ce royaume-ci est une folie pour cela, et cela est une folie pour celui-ci. Comme je l'ai souvent dit à ma femme, ouais, ici, il n'y a pas longtemps, nous sommes allés faire l'épicerie, il y a quelques mois, ils avons vu une femme qui portait une jupe. Et c'était la chose la plus étrange que nous ayons vue depuis longtemps. Eh bien, ce matin, je ne veux pas manquer de respect, j'ai entendu l'une des grandes organisations célèbres, et ma fille et moi écoutions la radio comme nous allions faire la dédicace d'une église. Et un chant qu'ils ont chanté, une sorte de quelque chose par un tel, un genre de chant classique qui me semblait comme les femmes qui retiennent leur respiration si longtemps qu'elles deviennent bleues dans le visage, puis elles pensent qu'elles savent chanter. C'est du grincement. J'aime les bons vieux chants pentecôtistes qui viennent du cœur. Vous ne faites pas suivre un air dans un seau à charbon, mais pourtant vous chantez, faisant un son joyeux pour le Seigneur. Je pense que c'est spirituel, j'aime ça. Mais de retenir votre souffle jusqu'à ce que vous soyez bleu dans le visage et vous mourrez puis revenez, vous ne savez même pas ce que vous chantez. Comment voulez-vous que quelqu'un d'autre le sache? C'est tout. Jésus a dit, nous parlons des choses que nous connaissons. C'est vrai, c'est vrai. Ce que nous devons faire, c'est de chanter ce que nous avons dans notre cœur, ce que nous ressentons. Et quand on a fini, ma fille a étudié la musique et elle a dit, frère, elle a dit, c'était vraiment un classique. Il a dit, oui, mais combien parmi cette chorale d'une cinquantaine de personnes fument la cigarette, tu penses? Combien de cette chorale, hier soir, samedi soir, n'ont pas bu un petit verre? Combien de femmes, là, avaient les cheveux coupés? Combien avaient du maquillage quand le pasteur de l'Église a dit qu'il y a quelques jours, Dieu a rendu le monde plus beau quand il a inventé le maquillage? Quand on sait qu'une seule femme dans la Bible a peint son visage et que Dieu l'a donné en nourriture aux chiens? Et nous, tous ceux qui connaissent quelque chose de l'Église et des païens, nous savons que le maquillage est un trait païen. Ça l'a toujours été. Et pourtant, les femmes le font. Et l'homme qui fume, qui boit, qui se comporte mal et qui se tient là et chante des voix comme ça, nous allons y venir dans quelques minutes juste ici, très bien. De faire partie d'une pensée organisationnelle quand il va y avoir la déception au jugement, à mon avis. Que d'être né de nouveau, c'est croire et bien se comporter dans l'esprit. C'est comprendre et croire avec son cœur que Jésus-Christ et que c'est sa parole, qu'aucune autre parole ne peut y être ajoutée ou retranchée sans que votre nom soit retiré du livre de vie. C'en était une forte. Si vous y ajoutez une chose dans votre tradition, que vous en retirez une chose, eh bien, Christ a dit lui-même, votre nom sera retiré du livre de vie. Maintenant, trouvez une organisation, une dénomination dans la Bible. Vous allez les fuir, très bien. Indépendamment de la chair, l'enseignement de la dénomination est contraire à la Bible. Oui. Né de nouveau signifie une nouvelle naissance d'en haut, né d'en haut. Ensuite, nous sommes en action dans les choses d'en haut. Oh là là! Car c'est lui-même qui agit dans sa parole à travers vous, son sarment de la vigne. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Oh, certainement. Il a dit, « Aucun homme n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. » Regarde-le répondre à Nicodème ici. Quand Nicodème, vous savez, il pensait, lui, étant un homme, il ne pouvait pas être Dieu. Il a dit, « Nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. » C'était trop pour lui. Comment est-ce que lui, le Fils de l'homme, qui était descendu du ciel, était le même qui était monté au ciel et le même que celui qui se tenait là sur le toit de cette maison, parlant à Nicodème, maintenant dans le ciel? Eh bien, il aurait dû voir que c'était Dieu. Il est omniprésent partout, voyez? Mais lui, dans ses traditions, ne savait pas. Il n'était pas spirituel. Étant charnel, il ne pouvait pas le saisir. Il a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Certains disent, « Eh bien, il est le Fils de David. » Il a dit, « Alors, pourquoi David, dans l'esprit, l'a-t-il appelé Seigneur? » Il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Comment pouvait-il être à la fois le rejeton et la postérité de David? Il était avant David, il était David, et il est après David, vous voyez? Il est le rejeton et la postérité de David. La Bible dit, le rejeton et la postérité de David. Comment pouvait-il être son fils alors? Comment pouvait-il être son Seigneur? La Bible dit que dès ce moment, il ne lui posa plus de questions. Je pense que c'était une bonne chose aussi. Oui, monsieur, très bien. Né de nouveau d'en haut. Alors nous sommes en action dans les choses d'en haut. Et car sa vie est en nous, qui est sa parole, confirmant la parole elle-même. L'Esprit qui est en vous est la parole qui s'est faite chair en vous. L'Esprit se soucie de la parole et agit activement dans la confirmation de la parole. Maintenant, l'Esprit n'est pas actif dans une dénomination, n'est pas intéressé à former une organisation, parce que l'Esprit lui-même est contraire à l'organisation. L'organisation recherche les choses du monde, la pensée du monde, et elle fabrique de grands temples et des choses raffinées, ainsi que de grandes organisations raffinées, des prédicateurs éloquents, et ainsi de suite, avec la meilleure classe de gens de la ville, alors que l'Esprit essaie de trouver des cœurs honnêtes où l'Esprit est soucieux de manifester et de prouver que chaque parole de Dieu est vraie. Comment l'Esprit peut-il travailler dans une organisation quand elle renie, choisit des credos au lieu de la parole? Il ne peut pas le faire. Alors, vous voyez, c'est mort. Dieu ne va pas dans ce genre d'endroit pour trouver les siens. Un groupe d'hommes qui travaillent pour lui, car ils sont déjà morts. Ils sont incroyants dans la parole, ou bien ils ne seraient pas là. Vous voyez? Maintenant, nous sommes en action dans les choses d'en haut. Or, l'Esprit est soucieux de la parole. Et c'est vrai, parce que l'Esprit donne la vie à la parole, vous voyez? La lettre tue, l'Esprit vivifie. Maintenant, en venant aujourd'hui, je regardais les beaux grands arbres au-dessus de la forêt, les grandes collines brunes, jaunes, parsemées de conifères. J'ai dit, vous savez ce que c'est? Nous venons d'avoir la mort. Et Dieu a étalé son bouquet à l'extérieur, le répandant sur les collines. Ce sont des fleurs funèbres. La vie est retournée dans la terre. Dieu vient d'enterrer toutes les graines de ces fleurs et de ces choses, les a enterrées à nouveau. Il a juste fait fleurir son bouquet. Et regarde, parce que la terre, ce sont des fleurs funéraires. Mais quand le soleil se lèvera à nouveau, cette semence reprendra vie. Amen. Très bien. L'Esprit est intéressé à la confirmation de la parole. Si vous avez accepté la tradition au lieu de la parole, maintenant vous dites, eh bien, nous croyons tout, mais frère Branham, je sais que nous ne croyons pas ceci. Alors c'est là que vous vous êtes arrêté. Aumônier m'a dit une fois qu'un capitaine a dit, ou je crois que c'était un major, qui a dit, Aumônier, va là-bas, il y a un capitaine qui se meurt, il a été mitraillé. Il est allé là-bas et le capitaine luttait. Il l'a emmené dans une tente de la Croix-Rouge et il a dit, capitaine. Il a levé les yeux à travers les gargouillis de sang et il a dit, oui, monsieur. Il a dit, vous êtes l'aumônier? Oui. Il a dit, vous êtes en train de mourir, capitaine. Il a dit, je le sais. Êtes-vous chrétien? Je l'étais. Il a dit, où l'avez-vous laissé, capitaine? Il a dit, vous allez le trouver à l'endroit même où vous l'avez laissé, c'est juste. Le capitaine a dit, je ne peux pas m'en rappeler. L'aumônier a dit, vous feriez mieux d'y penser, à vous voir agoniser, il ne vous reste que quelques minutes à vivre. Il avait la bouche ouverte, du sang lui sortait de la bouche, des oreilles, le corps transpercé de balles mitrailleuses. Il a dit, vous feriez mieux de vous dépêcher, car vos poumons se remplissent. Et le capitaine a commencé à chercher, alors qu'il agonisait, allongé là, un sourire apparu sur son visage, et il a dit, je le sais maintenant. L'aumônier a dit, où l'avez-vous laissé? C'est là que vous devez commencer. Il a dit, je me couche pour dormir. C'est là où je l'ai laissé, c'est là qu'il l'a trouvé. Lorsque votre organisation enseigne quelque chose de contraire à la parole, c'est là que vous le laissez. Revenez tout de suite, car il est actif pour confirmer et rendre manifeste cette parole. C'est ce que Jésus était, faisant toujours la volonté du Père. Vous voyez? Très bien. Donc, vous voyez, la compréhension de l'organisation de Nicodème ne signifiait rien pour Dieu. Là, peu importe s'il est un grand érudit, comme nous l'appelons dans l'organisation, un maître en Israël, tout son apprentissage et sa compréhension ne signifiaient rien. Quand il s'est tenu devant Christ, ça lui a été plutôt un reproche. Là, j'imagine que tout le monde disait, « Saint-Père Nicodème, nous nous inclinons devant vous, monsieur. » Mais quand Jésus se tenait devant Dieu, il l'a réprimandé pour son ignorance. Donc, vous voyez à ce quoi tout cela mène. Alors, oubliez ça. Venons, allons. Allons à Dieu, c'est vrai. Très bien. La grande compréhension de Corée ne signifiait rien non plus, dit celle d'Adam. Chacun reniant le message de Dieu confirmé. Là, écoutez attentivement. Nous allons entrer dans les hautes eaux dans un instant. Voyez? Chacun d'entre eux, la raison pour laquelle ils ont eu des problèmes, Nicodème, Corée, Nimrod, et ainsi de suite, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le messager de Dieu avec la parole confirmée de ce jour-là. Or, n'importe qui sait ça. Maintenant, on pourrait s'attarder longtemps là-dessus, mais Dieu prédit, il dit qu'une certaine chose se produira. L'homme crée des organisations, l'homme s'attend que cela se produise, se met en place. Il croyait qu'il y avait un Messie à venir. Oh, c'est juif, oh, bien sûr, mais quand Jésus est arrivé, comme il l'a fait, ils ont dit, cela ne peut pas être lui. Il manque de croire, comprendre la parole. Maintenant, Jésus n'est pas venu d'une manière contraire à la parole, pas vrai, mais il est venu d'une manière contraire à l'interprétation de la parole qu'en a l'organisation. Moïse n'est pas venu d'une manière contraire à la parole, il est venu exactement selon la parole, mais Corée a manqué de le voir. Et tout au long, cela s'est passé comme ça. Maintenant, regardez, ce message d'aujourd'hui, cela ne peut pas être seulement de dire quelque chose comme « nous avons la vérité, nous avons ceci, cela ». Il doit être annoncé dans sa parole, et puis après que la parole est apportée, elle doit être correctement confirmée par la parole. Jésus était correctement confirmé par Dieu, par la parole. Il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous auriez connu mon jour. Eh bien, les prophètes ont-ils parlé de lui? Eh bien, tous les prophètes ont dit ce qu'il était. Et pourtant, cela les a aveuglés. Ils ne pouvaient pas comprendre ça, voyez? Mais Jésus était, et je veux dire ceci pour la bande et pour vous aussi, voyez? Le messager avec le message du jour. Alors, si vous allez, l'Adventiste du septième jour dit, nous l'avons eu, il faut simplement observer le sabbat. Montrez-moi ça dans l'Écriture. Madame Eddie Baker a dit qu'elle l'avait. Montrez-le-moi. Les témoins de Jéhovah ont dit qu'ils l'avaient. Montrez-le-moi, voyez. Les méthodistes disent qu'ils l'ont. Montrez-le-moi. Les baptistes disent qu'ils l'ont. Montrez-le-moi. Montrez-moi n'importe quelle organisation. Je suis en train de vous prouver qu'elles sont toutes en dehors de la volonté de Dieu. Elles sont toutes contraires. Elles enseignent des traditions d'hommes au lieu de la parole de Dieu. Je n'en connais aucune d'entre elles qui accepterait les choses qui sont vraiment écrites dans la Bible telles qu'elles le sont. C'est vrai. Mais quand quelqu'un vient et dit, « J'ai reçu le message du jour », il doit d'abord être vu et annoncé d'avance. Quand Jean-Baptiste est sorti là, ils ont dit, « Es-tu le Christ? » Il dit, « Je ne suis pas. » Il a dit, « Êtes-vous Élie? » Il dit, « Je ne suis pas. » Il a dit, « Qui es-tu? » Il pouvait s'identifier, il avait le message de l'heure. Il a dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Maintenant, si ma naissance et ma vie ne se comparaient pas à cela, ne me recevez pas. Quand Jésus est venu, c'était la même chose. La même chose. Le messager avec le message doit être un message annoncé par Dieu. Et alors, Dieu, parlant par ce messager, confirme que c'est la vérité. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le comprenez? Le comprendre doit d'abord être ainsi dit le Seigneur, annoncé. Et puis, le messager avec le message doit être exactement ce que Dieu a dit qu'il y aurait lieu à ce moment-là. C'est ainsi que Moïse était. C'est la raison pour laquelle il est tombé sur son visage devant Dieu. Il a dit, « Dieu, tu m'as envoyé. » Il a dit, « Sépare-toi de ce groupe. » Vous ce que je veux dire? Cela a toujours été la chose qui a tordu l'esprit de l'homme et qui les a fait s'écarter de la volonté de Dieu. Souvenez-vous. Maintenant, annoncé par sa parole et correctement confirmé par sa parole. Maintenant, Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de Dieu, alors ne me croyez pas. Voyez, si je vous manque, dites, qui d'entre vous peut me condamner de péché? Qui d'entre vous peut me montrer que je suis un incroyant? Nicodème a dit, « Nous savons que tu es maître, tu viens de Dieu, car personne ne pourrait faire ces choses à moins que Dieu soit avec lui. » Vous voyez? Cela montrait donc qu'il était un croyant. Maintenant, nous qui connaissons l'histoire de l'Église, là, mettez vos casquettes de réflexion. Il n'est pas tard encore. Vous voyez? Écoutez donc attentivement maintenant et j'essaierai d'être aussi rapide que possible. Et je veux écouter la bande attentivement. Or, quiconque a déjà lu l'histoire de l'Église, c'est que la première fois que le christianisme a été organisé, c'était l'Église catholique romaine. Maintenant, si c'est arrivé avant cela, je veux que quelqu'un m'apporte cela et me le montre dans l'histoire. Je suis un ami intime de Paul Boyd, de beaucoup de grands historiens. J'ai dans mes études là-bas le Concile post-nicéen, le Concile nicéen, les prépaires nicéens, tous les écrits sacrés de l'Église que je connais. Ça fait 33 ans que je les étudie, je les ai scrutés. Il n'y a jamais eu d'organisation. L'Église catholique est la mère de l'organisation. Nous savons que c'est la vérité. L'Église n'a jamais été organisée. Il n'y a jamais eu une dénomination jusqu'à l'Église catholique. Et le mot catholique signifie universel. Ils ont fait une religion d'Église, d'État, et ont réussi à la faire dominer à Rome, et c'était là la plus grande partie du monde conquise à cette époque. C'était l'Église de l'État, et ceux qui ne l'obéissaient pas étaient mis à mort. Au Concile de Nicée, 15 jours de bataille sanglante, quand les vrais prophètes de Dieu, quand ils se sont tenus là, l'Église catholique, eh bien, comment cela a condamné? Eh bien, nous le savons tous, je l'ai enseigné ici. Comment vraiment Aquila et Priscilla, il était le pasteur. Aquila était le pasteur de l'Église romaine. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il est descendu sur les Juifs de toutes les nations sous le ciel. Mais quelques jours après cela, Pierre a eu une vision sur le toit d'aller voir Cornelius, un Romain, un homme juste. Il a prié et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Au bout d'un moment, les dignitaires ont commencé à le recevoir. Aquila et Priscilla sont entrés à Rome et ils ont organisé, ou ils n'ont jamais organisé, mais plutôt mis en ordre la première église romaine. Et quand ils ont fait, il y avait leurs frères et sœurs, et Claudius, dans son règne, excommunia tous les Juifs de Rome. Et c'est à partir de ce moment que l'Église catholique a dit que Pierre était à Rome. Montrez-moi une écriture où Pierre était à Rome. Ou n'importe quel passage de l'histoire qui dit qu'il était. Il n'y était pas, selon la parole de Dieu, et ça, c'est ce que je crois. Et comment Pierre, un Juif, peut-il supporter l'idolâtrie et ces choses qu'ils avaient, d'adorer des idoles et ces choses? Ou, vous voyez, comment aurait-il pu aller contre son propre enseignement ici? Absurdité. Pas plus que les protestants le pourraient eux aussi. Attendez-nous, nous arriverons dans quelques instants. Peu à peu, si le Seigneur le veut. Remarquez, nous trouvons que le moment même où l'Église a dit que Pierre était à Rome, l'histoire dit que Claudius, et la Bible le dit aussi, avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Et Paul traversa Éphèse et arriva sur les côtes supérieures, il trouva ses disciples, et là, il est allé visiter Aquila et Priscille. Après leur départ, alors les frères romains de cette Église ont commencé à former leurs propres idées et ils ont ajouté l'idolâtrie. Et alors Constantin, lequel avait pour mère une vraie chrétienne qui espérait que son garçon en deviendrait un, mais il était un politicien. Il a vu que la plus grande partie de Rome ou une grande partie de la classe pauvre avait déjà accepté le salut par Christ. Et puis qu'ils commençaient à devenir très populaires parce qu'ils enlevaient Vénus pour mettre Marie et enlevaient Jupiter pour mettre Pierre et ainsi de suite et les disciples. Et c'était une religion très populaire. Ils étaient des héros. Et ces chrétiens donneraient leur vie. L'Église catholique dit, nous avons été le commencement. C'est exactement la vérité. L'Église catholique a commencé au jour de la Pentecôte. Mais voici ce qui l'a fait sortir. Elle a organisé et injecté de la parole des dogmes. Et le dernier dogme, vous avez eu plus de 10 ans, vous vous souvenez du dernier dogme, l'ascension de Marie, qui a environ 10 ans. Un autre dogme ajouté à l'Église. Au lieu de l'Écriture, c'est un dogme. Ils vous laisseront comprendre tout de suite qu'ils se fichent de ce que l'Écriture dit, c'est ce que l'Église dit, l'Église. Et ce prêtre m'a dit, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Il dit, eh bien, cette Bible n'est qu'une histoire de la première Église catholique. J'ai dit, alors je suis un catholique du début. J'ai dit, cela fait de moi un catholique plus que vous qui êtes prêtre. Vous voyez? J'ai dit, si c'est ça, alors je suis cela. J'ai dit, vous voyez, je crois exactement ce que les apôtres ont enseigné. Vous croyez ce que l'homme a injecté. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bien sûr, c'était le cas. Ça s'est passé exactement comme ça. Remarquez maintenant l'histoire, puis ils ont commencé à ajouter des dogmes des dogmes, et quand Paul est venu, nous savons, selon l'histoire, qu'il n'a pas même visité cette première église parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idolâtrie, et qu'il a visité la seconde église qu'il avait établie, la seconde église de Rome. Quand le concile de Nicée vint, où Constantin vit l'idée d'unir son royaume, la même chose qu'Acab a fait avec Jézabel en se mariant là-bas, vous voyez, et quand il a vu l'occasion d'unir son peuple et d'en faire une grande nation puissante, il a pensé qu'il obtiendrait la religion, alors il en fait une religion d'église et d'État. Et lorsqu'ils eurent ce concile de Nicée, que ces questions surgirent, à savoir qu'il n'y avait qu'un seul Dieu ou trois, s'ils devaient baptiser au nom de Jésus-Christ ou Père, Fils, Saint-Esprit, toutes ces autres questions amenèrent à une confrontation là-dedans. Et quand cela s'est produit, certains d'entre eux, de vieux prophètes, sont allés là-bas avec seulement une peau de mouton enroulée autour d'eux. Ils mangeaient des herbes. Mais ces grands dignitaires s'étaient déjà frayés un chemin dans l'Église, les enfermant avec la sagesse du monde, mais ils avaient l'insidie du Seigneur. Elle est allée dans les ténèbres païennes pendant un millier d'années. Mais elle a encore éclaté pour fleurir, c'est exact. Vous ne pouvez pas le tuer. Se restaurer, dit le Seigneur, toutes les années que ces choses ont mangé. Cette dénomination a ajouté un dogme. Et pour ce faire, pour ajouter un dogme, la seule façon qu'une église, la seule façon qu'une dénomination puisse jamais s'écarter de la parole de Dieu est d'ajouter un dogme au lieu des saintes écritures. C'est d'essayer de faire de votre tradition ou de la doctrine de votre Église, même si c'est contraire aux écritures. Alors, comment pouvez-vous condamner l'Église catholique alors que vous faites la même chose qu'eux? Est-ce que vous comprenez? Très bien. Quand maintenant, pensez-y. Les Écritures ne peuvent pas faillir. Les dogmes sont un mensonge pour commencer. Et quand on accepte une dénomination, vous avez alors déjà un dogme, parce que c'est quelque chose d'ajouté. Ce n'est pas dans les Écritures. Ce n'est pas dans les Écritures. L'organisation n'existe pas. Jésus n'a jamais dit, « Je vous ordonne d'aller dans le monde entier, de vous organiser. » Non, monsieur. N'existe pas une telle chose. Faire cela, c'est rejeter les saintes Écritures. Quand cela s'est produit, il a été changé de l'Église par naissance à Église par dogme et credo. Pas Église, laissez-moi m'excuser, plutôt loge. Tu es né dans l'Église, mais tu t'es joint à une loge. Ce n'est pas l'Église baptiste, l'Église méthodiste, l'Église pentecôtiste. C'est la loge baptiste, la loge pentecôtiste et la loge méthodiste. Vous y êtes joint. Vous ne pouvez pas vous joindre à l'Église. Il n'y a rien de tel. Vous êtes né dedans. C'est ce qui a été dit à Nicodème. Vous voyez où vous en êtes? C'est pour ça que je suis contre. Pas contre les gens qui s'y trouvent, c'est contre le système. Parce qu'ils ne peuvent pas. L'un d'eux ou un autre, une des églises prêche quelque chose dans la Bible qui est contraire à cette doctrine de cette charte qu'ils ont dans cette église. Il est alors excommunié comme ça. Oui, monsieur. Certains d'entre eux sont tellement méchants qu'ils ne laisseront même pas un réveil dans une autre église, à moins que ce soit un de leurs propres hommes. Pourquoi ils sont... Une fois, quelqu'un était pour donner un prédicateur, ici même dans ce pays, un petit prédicateur debout dans la rue qui criait, implorait les gens à se repentir. Il disait, « Venez recevoir Christ, soyez remplis du Saint-Esprit et des choses dans le genre. » Et quelqu'un d'une organisation pentecôtiste est arrivé à donner $1 à cet homme et a dû aller se repentir parce qu'il avait commis l'adultère contre son église. Parler de catholique, c'est vrai. Et vous savez aussi de quoi je parle, où cette Église le fait, de toute façon, très bien. De faire ça, de rejeter les Écritures, quand on fait ça, c'est alors changé quand vous ajoutez un dogme et que vous joignez à une organisation, vous avez automatiquement accepté votre premier dogme. Parce qu'il n'est pas scripturaire, donc c'est quelque chose d'ajouté. Et un dogme, c'est quelque chose d'ajouté. Il prend la place de, il prend la place de la naissance. Lorsque vous acceptez une dénomination, vous avez ajouté un dogme. Très bien. Quand on fait ça, alors, cela passe de l'Église par naissance à l'éloge par dogme ou credo. Vous voyez, c'est un dogme en soi. Ce qui n'est pas scripturaire. Maintenant, Jésus n'a jamais dit, « Allez dans le monde entier et faites des dénominations, allez organiser les gens ensemble. » Il a dit, « Allez, faites des disciples. » Croyez ça? Amen. Vous voyez, vous êtes tous écartés. Écoutez, regardez ici. Terminons ça sur quelque chose d'autre ici. J'essaie d'enfoncer quelque chose correctement en ce moment. Combien d'entre vous ont un lexique grec? L'emphatique dialogue tiré du vieux manuscrit grec? Très bien, lisez-le. Demandez aux chercheurs que vous voudrez. Entrez dans la bibliothèque et prenez le lexique grec. Lisez Apocalypse 17 et quand vous lisez là, la version King James dit ici, « Il me transporta dans l'esprit et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. » Maintenant, c'est ça que la King James dit. Mais l'interprétation originale disait, « Transporta dans l'esprit et je vis une femme pleine de noms blasphématoires. » Il y a une grande différence entre les noms de blasphème et les noms blasphématoires. Observez maintenant. Nous comprenons tous, nous savons que c'était l'Église romaine qui est assise sur sept collines, contrôlant les puissances du monde. Elle était appelée une prostituée. Elle était la mère des prostituées. Qu'est-ce? Est-ce que ça pourrait être un homme? Ça doit être une femme. Donc, si c'est une femme, ça doit être une église. Elle était la mère des prostituées. La même chose qu'elle. Et regardez, observez, en elle, laissez ça pénétrer, en elle se trouvaient des noms blasphématoires. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, vous, les ministres ici, et pour ceux qui écoutent la bande, restez tranquilles. Quels sont ces noms blasphématoires? Méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, pentecôtiste, et ainsi de suite. Ce sont des noms blasphématoires parce que ce sont des organisations de la prostitution aux yeux de Dieu, tout comme elles l'étaient. Et eux, dans ces groupes, les gens disent, eh bien, c'est un méthodiste, il fait ceci, il est pentecôtiste, il a fait cela, il est presbytérien, il a fait ça. Ils suivent tout ce qui est sur le calendrier, vous savez ça? Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des noms qui devaient ressembler à Christ. Ils devaient porter le nom de chrétien et ce sont des noms blasphématoires. Ce ne sont pas des églises, ce sont faussement appelées églises. Ce sont des loges. Voyez maintenant pourquoi je suis contre les organisations, pas les gens. Le système des organisations, voyez? Le nom, les noms blasphématoires, observez, des loges s'appelant faussement des églises, l'église méthodiste, l'église baptiste, l'église presbytérienne, l'église pentecôtiste, l'église luthérienne, l'église unie des frères, ça n'existe pas, ce n'est pas scriptural. Il n'y a qu'une seule église, et vous ne pouvez pas la joindre, vous y naissez, vous y êtes prédestinés. Le corps mythique de Jésus-Christ, le corps mystique plutôt de Jésus-Christ est ici sur terre avec la manifestation de la parole. Les fils et les filles de Dieu n'appartiennent à aucune d'elles. Sortez du milieu d'elles, a-t-il dit. Oui. Maintenant, observez ceci rapidement, je ne veux pas vous fatiguer. Mais si vous pouviez simplement me donner quelques minutes de plus, je vais aller aussi vite que possible, mais je veux que vous soyez sûr de le saisir pour que vous ne le manquiez pas, voyez. Souvenez-vous, Maman Rome, elle a trouvé plein de noms blasphématoires, la mère des prostituées. Alors, si ce sont des prostituées, qu'est-ce qu'une prostituée? Qu'est-ce qu'une impudique? C'est la même chose qu'une prostituée. C'est une femme qui n'est pas fidèle à son vœu de mariage. Et toute église qui prétend être l'église de Christ et qui nie la parole de Dieu, elle est infidèle à son vœu de mariage. Elle commet alors l'adultère en agitant des dogmes, en se prostituant avec le monde et sa sagesse au lieu d'accepter Christ et la puissance de sa résurrection par le Saint-Esprit. Et elle est la mère des prostituées qui ont fait la même chose. La poêle ne se moque pas du chaudron, vous savez. Six d'une sorte et une demi-douzaine de l'autre. Certaines de ces personnes ne se permettent de se moquer de l'Église catholique alors qu'ils font partie de quelque chose de semblable. Elle était la mère du faux baptême d'eau. Elle est la mère de la fausse évidence du Saint-Esprit. Et vous l'accompagnez là-dedans? Maintenant, voyons voir. Est-ce vrai, Frère Branham? Restez tranquille encore un instant. Voyez? Elle est la mère des noms blasphématoires, des loges auxquelles les gens ont adhéré, et elle amène un reproche en vivant n'importe comment, des culottes courtes, des femmes qui se coupent les cheveux, qui se peinturent le visage, qui chantent dans les chœurs, qui fument des cigarettes, qui prennent la communion, et toutes sortes de souillures mondaines, et c'est une pierre d'achoppement pour l'incroyant. N'est-ce pas que Timothée en parlait du Saint-Esprit? Observez. Voyez, elle, Rome, est la mère de chacune d'entre elles. Voyez? Vous avez fait exactement dans votre organisation comme elle, injecter des dômes au lieu de la parole, parce qu'un groupe d'hommes se sont assis ensemble, des prêtres et des évêques, et ainsi de suite, et ils ont dit qu'il fallait que ce soit de cette façon, et c'est exactement ce qui s'est passé à Rome. Et vous essayez, mon frère pasteur, d'accepter la pleine parole de Dieu. Voyez où cela vous mènera. Vous sortirez de là. Maintenant, nous verrons si Dieu vous l'a dit ou pas dans quelques minutes. Voyez? Très bien. Voyez, elle est la mère de chacune d'elles parce qu'elle a été la première à retirer des écrits de l'Écriture et à ajouter des dogmes. Parce qu'elle a rejeté les prophètes loin dans la vie avait été confirmée par la parole. C'est pour leur intelligence, pour les hommes intelligents, les empereurs romains et ainsi de suite, qui avaient accepté le christianisme, mais qui voulaient l'accepter à leur manière, voyez? C'est vrai, ils veulent ça à leur manière. Naaman voulait se débarrasser de sa lèpre dans les eaux de son pays, parce qu'il n'aimait pas les eaux boueuses du Jourdain. Mais s'il espérait se débarrasser de la lèpre, il devait entrer dans cette boue exactement comme le prophète lui avait dit de le faire, voyez? Dieu ne fait point exception de personne. Remarquez, elle était la première dénomination. Voyez ces filles. Elles ont fait la même chose. Elles ont ajouté des credos et des dogmes à la place de la parole. Ne me dites pas, montrez-moi une seule organisation qui ne s'est pas éloignée de cela. Montrez-moi un pasteur qui acceptera la vérité, qui ne rejetteront pas, à moins que vous soyez si populaire. Vous savez qu'ils doivent s'accrocher à vous à cause de votre popularité ou quelque chose. C'est bon. Maintenant, regardons Apocalypse 18, juste pour quelques minutes, le verset suivant, le chapitre suivant, après que l'Apocalypse 17 ait exploré et montré le mystère de cette mademoiselle Babylone. Le 17e chapitre de l'Apocalypse explique qu'elle est une église et qu'elle est assise sur sept collines, la cité du Vatican, qui gouverne tous les rois de la terre, c'est effectivement le cas, et les présidents aussi, et ainsi de suite. Ah oui, aussi. Mais elle est là, tenant la richesse du monde dans sa main. C'est exactement ça. Qui est en mesure de faire la guerre avec elle? C'est vrai. Nous savons tous cela. Mais pourquoi voudriez-vous faire partie de quelque chose qui lui est rattaché? Maintenant, remarquez, au chapitre 18, le chapitre qui suit immédiatement l'explication de son mystère, assise dans le temple de Dieu. Maintenant, ici, l'autre jour, Zella Brightman, étiez-vous ici ce soir, Zella? Elle a apporté, c'est dans la salle là-bas maintenant, notre visiteur du dimanche, le journal catholique. Et le journal catholique répondait à un ministre. Il a dit, avez-vous dit, révérend, que dans le chiffre romain au-dessus du Vatican ou au-dessus du trône du pape, il est écrit « Vicarius Filii Dei » et que cela signifie que dans le diocèse catholique, que c'est le nombre de la bête de l'Apocalypse. Bien, a-t-il dit, certainement, ça l'est. C'est exactement ça, et ça fait 666, c'est exactement ça. Et le dit à 16 Romains, admet que c'est le cas. Mais voici la réponse. L'intelligence est pleine de sagesse. Ils ont dit, mais vous savez, votre nom dans une certaine langue pourrait produire le même résultat. Cet homme a dit, le mien, c'est presque la même chose dans certaines langues. Il a appelé, il a dit, voyez, ça donne presque le nombre 666, moi aussi. Il a dit, il y a des centaines comme ça. Il a dit, chaque fois qu'un événement survient, quelqu'un a 666. Puis il a dit, révérend, saviez-vous que dans une seule langue, votre propre nom pourrait être appelé l'Antéchrist? Il a dit, pourquoi regardez-vous à de telles choses, recherchez la sagesse? Mais le Saint-Esprit connaît mieux. Observez, il se pourrait que mon nom fasse 666, mais je ne rencontre pas le reste des qualifications. Je ne suis pas assis sur une colline. Je ne dis pas ces choses. Je ne suis pas un gouverneur, vous voyez? C'est vrai. C'est celui dont il parle. Ainsi, votre sagesse du monde ne mène à rien, monsieur. C'est vrai, dans la présence du Saint-Esprit. Je ne rencontre pas le reste, mais lui, il le fait. Assis dans le temple de Dieu, se présentait lui-même comme Dieu et assis sur cette colline. Je ne suis pas assis sur cette colline, mais si ça faisait 666, je ne rencontre pas le reste des critères, mais lui, oui. Voyez-vous, vous y êtes. Comptez simplement sur le Saint-Esprit. Ne pensez pas à ce que vous allez dire, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Père. Alors, comment votre sagesse et votre nouvelle naissance d'en haut peuvent-elles jamais être comparées à ces choses ici-bas sur la terre, à ces puissants magiciens? Eh bien, ils connaissent chacun, astuce et chaque recoin. Comment Moïse a-t-il tenu quand il suivait les commandements de Dieu? Il a jeté son bâton afin qu'il soit transformé en serpent. Et voilà que les magiciens sont arrivés et ont fait la même chose. Mais Moïse est resté tranquille en sachant qu'il avait suivi la parole de Dieu et son serpent a mangé les autres. Voyez? Alors, quand vous avez obéi, et avec, que pouvait-il faire quand il les a conduits à la terre promise et que là se trouvait la mer rouge et qu'il les embouteillait? Mais le sentier de Dieu est passé directement au travers. Amen! Il a dit, restez tranquille et voyez la gloire de Dieu. Quand c'est dans le sentier du devoir de suivre la parole, restez là et regardez-la s'ouvrir. Amen. J'ai 53 ans, je la sers depuis environ 33 ans et j'aurais aimé avoir 10 millions d'années pour le servir. Je ne l'ai jamais vu faillir quand sa parole est gardée, c'est vrai. Maintenant, regardez. Juste après qu'elle ait péché, ses secrets ont été découverts. Nous l'avons vu il y a longtemps, nous le savons. Prenons maintenant le chapitre suivant. Regardons Apocalypse 18. Puis-je revenir juste ici une minute? Ça pourrait être une bonne chose. Ça ne nous prendra que quelques minutes de plus et ça pourrait être un plus pour vous. Je l'espère. Maintenant, nous voyons ici au 17e chapitre, le 5e verset. Sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et surveillez, et je vis cette femme, l'Église, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Voyez, en la voyant, c'était une si belle chose. Elle était la mère des prostituées, la religion des prostituées, les dénominations, exactement ce qu'elle a fait. Voyez, car elles ont injecté des dogmes comme elle l'a fait. Maintenant, regardez. Regardez dans l'Apocalypse maintenant, c'est dans le chapitre 17, ça se termine au 18e verset. Maintenant, regardez, après ces choses, après que son mystère ait été dévoilé, après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Maintenant, voici un autre messager qui descend. Au chapitre suivant, son mystère a été dévoilé. Maintenant, ceci est maintenant le dévoilement de son mystère et du mystère de ses enfants. Voyez, nous comprenons maintenant exactement ce qui a fait d'elle une prostituée parce qu'elle a commis l'adultère contre la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait d'elle une organisation. Elle ne pouvait pas demeurer une église de la Bible et accepter cela. Et aucune organisation qui ne prend pas toute la parole telle qu'elle est écrite ne peut être une église de la Bible. Et aucune d'entre elles n'est comme ça, à ce que je sache, pas une. Alors là, voyez, dès qu'elle s'organise, la chose qu'elle fait, à la fois par les Écritures et par des évidences, elle meurt juste là et elle accepte des dogmes. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Dieu a envoyé au 18e chapitre un ange puissant, après que ce mystère ait été connu, un ange puissant ou un messager. Regardez ici. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone, confusion la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, et une cage pour tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Regardez, immédiatement après que son mystère a été connu, qui il était, ce qu'elle était, qui étaient ses filles, le mystère a été connu, alors Dieu a envoyé un ange, un messager, pourquoi? Appelé à sortir. Sortez! Le message de l'heure. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez point peur à ces fléaux. Il va la maudire. Regardez. Sortez du milieu d'elle. Dieu a envoyé beaucoup, un ange puissant ou un messager, et sa lumière n'était pas dans un coin. Elle s'est répandue sur la terre. Sortez du milieu d'elle. Quoi? Elle et ses sœurs aussi. Pour éclairer la terre et appeler son peuple à sortir d'elle. Maintenant, vous savez que c'est la vérité. Un messager a été envoyé du ciel pour appeler le peuple de Dieu hors de Babylone. Et sa lumière a éclairé la terre, le grand Saint-Esprit. Remarquez, la Bible dit, elle est un repère et a attrapé des oiseaux odieux et impurs. Pas des aigles maintenant. Non, non, non. Des vautours. Des oiseaux impurs et odieux. C'est ce qu'elle a mis en cage autour d'elle. Elle est un repère rempli d'eux. Un repère entier rempli. Avec quoi? Des noms blasphématoires, contraires aux Écritures. 2 Timothée 3 dit le Saint-Esprit qui parle. Dans les derniers jours, ils s'écarteront de la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs. Il a aussi dit, le Saint-Esprit a dit, que dans les derniers jours, qui seraient remportés, enflés d'orgueil, odieux, bénissez Dieu, vous êtes des nôtres, ou alors vous n'avez pas votre nom dans notre livre, vous êtes perdus. Odieux, impur. J'espère que je ne fais pas mal, j'espère que je fais du bien. Des oiseaux odieux, impurs. Elle les a mis en cage. Rappelez-vous, Dieu est un aigle. Il s'est appelé un aigle. Il a appelé Jacob un aigle. Et nous sommes ses aiglons. Amen. Il a appelé ses prophètes des aigles. Et cet ange est descendu pour exposer et appeler à sortir. Comme mon petit message sur l'aigle qui éveille sa couvée. Ce petit aigle avait suivi cette vieille poule dans la basse-cour tout le temps, gloussant, mais il ne pouvait pas manger ce qu'elle avait, des affaires sociales, des femmes au visage fardé, des cheveux coupés, des shorts. Il ne pouvait pas faire ça, mais il ne savait rien d'autre que le gloussement de cette vieille poule. Mais un jour, la mère aigle l'a trouvé. Elle a crié, l'appelant à sortir. Elle a dit, « Mon fils, tu n'es pas l'un d'eux. Sors du milieu d'elle. » Il a dit, « Maman, que puis-je faire? » Il a dit, « Bats tes ailes et envole-toi. » Au premier saut, il a heurté un poteau en plein milieu d'une organisation. Elle a dit, « Fiston, tu dois monter plus haut que ça. Je ne pourrai pas t'attraper. Il faut que tes pattes quittent le sol. Elle va prendre le vol. » Elle a découvert qu'il pouvait voler. Elle est venue l'appeler à sortir, c'est vrai. Mais cette mère Babylone avait attrapé une bande de poulets, des poussins lissés, fardés, des cheveux coupés, courts, qui s'appellent chrétiens. en avait une cage remplie. Vous, les prédicateurs qui vous tenez en chair et laissez ces femmes s'en tirer avec cela, honte à vous, afin que votre dénomination soit grande. Dieu redemandera cela. Sortez du milieu de cela. Mes brebis entendent ma voix. Un repère d'odieux, d'emporter, d'enfler d'orgueil et aimant le plaisir plus que Dieu. Ils préfèrent être comme le monde plutôt que d'être comme Christ. Quand vous voyez une femme avec beaucoup de maquillage, cela montre qu'elle est vide à l'intérieur. Elle est artificielle à l'intérieur. C'est exactement vrai. Si la femme, j'en ai vu un autre jour avec des cheveux verts, c'est vrai, avec tout ce truc vert dans les yeux. Maintenant, si vous n'aviez pas de cheveux et que vous vouliez porter une perruque, ce serait en ordre. Mais portez-en une qui aurait l'air naturel. S'il n'y avait pas d'ongles et que vous vouliez avoir des ongles, ne prenez pas ceux qui sont comme des coques d'haricots blancs. Prenez des vrais ongles. Si vous n'avez aucune de ces choses, c'est en ordre. Si vous n'avez pas de dents, prenez-en quelques-unes. Si on fabrique, prenez-les-en. Mais ne retirez pas les dents que vous avez reçues de Dieu parce que c'est un peu de travers et que vous voulez de bonnes dents. N'éteignez pas vos cheveux ou quelque chose pour ressembler à quelque chose qui sort du bourbier. Si vous êtes pâle, que vous voulez paraître comme ayant un teint coloré, c'est en ordre, j'imagine. Mais ne ressemblez pas à Jézabel ou à une grange quelque part parce qu'on est en train de peindre. Et vous, frère pentecôtiste, qui laissez les femmes se couper les cheveux, alors que la Bible dit que c'est sa gloire, il est même inadéquat qu'elle prie avec ses cheveux comme ça. Et puis la laisser encore monter en chair et prêcher l'Évangile, chanter dans une chorale, enseigner l'école dimanche, honte à vous! Vous devriez avoir honte de vous. Pourquoi suis-je contre l'organisation? Vous pensez que je pourrais supporter quelque chose comme ça? Je connais la raison pour laquelle vous le faites, frère. Vous connaissez mieux, mais si vous enseignez contre cela, vous serez envoyé au quartier général. Ils vont vous excommunier. Dieu soit béni pour votre courage si vous le faites. C'est vrai. Dieu vous honorera. Qu'est-ce que cet ange a dit? Sortez du milieu d'elle! Oui, monsieur, cet ange est venu sur la terre. Il est venu apporter la lumière. Il a fait briller la lumière dans le monde entier. Il était un ange puissant. Il est venu pour proclamer le message de sortir de Babylone. Ne touchez pas à ces choses impures. Il en a une cage remplie. Il a dit, il est un repère de tout oiseau odieux. Oui, il en est rempli de cette sorte maintenant, le Conseil mondial des églises ou des loges. Il en a mis beaucoup en cage maintenant. Ils se rassemblent tous. Elle est devenue un repère, très bien, rempli d'oiseaux odieux, c'est vrai. Essayez de parler à l'un d'entre eux une fois, essayez-le. Mon gars est intelligent dans la sagesse du monde, mais il ne connaît pas plus Dieu qu'un lapin de cerise, que c'est des raquettes à neige. C'est vrai, juste, c'est juste cela. Voyez, tout ce qu'ils connaissent, c'est une certaine sagesse. Ils peuvent mettre ceci, faire cela dedans, mais quand il s'agit de la reconnaître... Oui, il a été pris dans sa cage avec des hommes. Des églises protestantes qui font de même, deviennent ses filles. Elle incite cela en reniant la parole de Dieu. Elle le fait. Elle renie la parole. Et quand vous acceptez quelque chose d'autre que la parole, vous la reniez vous-même. Et lorsque vous vous joignez à l'une d'entre elles, vous avez également nié la parole. Dieu ne vous veut pas comme ça. Il n'y a pas de place pour ça dans les Écritures. Notez que ceci est l'ange de lumière. Souvenez-vous, le dernier ange, c'est l'ange de l'âge de l'église de Laodicée. C'est le messager de Laodicée. C'est le dernier, car le chapitre suivant est le 19e chapitre, qui est la venue de l'épouse. Et c'est dans les Écritures, le dernier ange qui est venu apporter la lumière avant la venue de l'épouse pour aller à la rencontre de Christ. C'était donc l'âge de l'Église de Laodicée. Quel était le messager de l'âge de l'Église de Laodicée? Les appeler hors de Babylone. Regardez, les Églises prises dans sa cage avec elle, avec ses dogmes, niant la parole et acceptant les dogmes. C'est l'ange de la lumière à l'Église Laodicée, qui avait rejeté Christ et sa parole pour des dogmes et l'avait mis dehors. se tenait à la porte, frappant, essayant d'entrer. Voyez, l'ange de l'Église avait rejeté le Christ. Et Christ est la parole. Et elle l'avait rejeté, et il était à l'extérieur. Le seul ange de l'Église que nous avons où Christ est à l'extérieur, frappant, essayant d'entrer. Et le message de cet ange, un messager venu de Dieu, était en train de faire résonner son message sur la terre. Sortez de Babylone, sortez des organisations. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit est cet ange qui essaie de ramener les gens à la parole. Car le Saint-Esprit ne fera que confirmer la parole. Il ne peut pas confirmer des dogmes, il n'y a pas de vie en eux. Il est la vie. Remarquez que l'âge de l'Église de Laodicée l'avait renié, rejeté, ils l'ont mis à la porte. Remarquez, cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ dans le 19e chapitre de l'Apocalypse. La voix du messager, si nous remarquons, quand il a tonné sa voix sur la terre, il y a eu une voix qui en faisait écho au ciel. Le 4e verset, si vous voulez lire, très bien, le 4e verset, le 19e chapitre. Ce messager sur la terre était tellement près de Dieu que lorsqu'il parlait sur la terre, Dieu faisait redonner la même chose au ciel. Quelle est la compréhension du 4e verset? Qu'est-ce que cela veut dire? La voix de Dieu parlant à son peuple prédestiné en disant « Sortez du milieu d'elle ». Exactement ce que la voix était. Il y a des gens partout là-dedans, partout à Babylone. « Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. » Oui, monsieur. Hors de ses dogmes et de ses credos à la parole rendue esprit et vie. Amen. Remarquez, le 19e chapitre est le suivant. Après ces choses, vous remarquez ici au 19e chapitre, après ces choses, regardez quoi? Après quoi? Après le message de sortez du milieu d'elle, après ces choses, regardez, c'est le cri de l'épouse des saints avec l'époux allant au mariage de l'agneau. Combien sommes-nous proches alors, frère? Quel est le dernier appel? Sortez de Babylone! Maintenant, mes frères, c'est la raison pour laquelle je suis contre cela. Ce n'est pas scriptural. Ce n'est pas conforme. C'est avéré être faux. Dieu ne s'y trouve pas. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens dans ces organisations. C'est à partir de là que l'Église a été formée. Mais tant que vous restez dans ce système, vous en faites partie. Si je demeure aux États-Unis, je suis américain. Tant que je suis citoyen ou membre de ce pays, j'en fais partie. Si je fais en Allemagne et que je nie mon appartenance ici ou ma citoyenneté, je prends la nationalité allemande, je ne suis plus américain, je suis allemand. Si je vais au Japon ou ailleurs en Russie, je deviens citoyen là-bas. Et lorsque vous rejoignez un citoyen, un système, et devenez citoyen de ce système, vous montrez ce que vous êtes. Et en ces derniers jours, Dieu appelle les gens à en sortir. La Bible a dit, « Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez pas avec elle, et je vous recevrai. » Ne touchez pas ces choses impures, voyez, et je vous recevrai. Et vous serez mes fils et mes filles, et je serai votre Dieu, voyez. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé contre l'Église, contre la loge. Je ne peux pas l'appeler cela une Église. Il n'y a qu'une seule Église, c'est l'Église du corps de Christ. Mais ces loges qui s'appellent l'Église, la Bible me dit qu'elles sont des noms blasphématoires, toutes. Toutes les organisations. Que blasphèment-elles? Blasphémer veut dire être opposé à ou parler contre. Quand Dieu dit « Venez et naissez » et qu'ils disent « Venez joindre », voyez? Quand les baptêmes de l'Esprit sont faussement remplacés par une hostie dans l'Église catholique, une poignée de main dans l'Église protestante, une émotion dans l'Église pentecôtiste, au lieu de la personne de Christ, nous unissant avec tout cet édifice pyramidal que nous avions vu l'autre jour, ajouté à votre foi de la vertu, et ainsi de suite. Tout cela dans 1 Pierre, 2 Pierre, je crois, le premier chapitre, là où tout est ajouté à votre foi, toutes ces choses, la piété, la pureté, la sainteté et tout, et alors vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Mais c'est comme quelqu'un qui, les gens prétendent l'avoir alors qu'ils ne l'ont pas, parce qu'ils ont été faussement enseignés. Les méthodistes ont une drôle de sensation auparavant et bougent un peu ou dansent dans l'esprit. Les pentecôtistes parlent en langue ou font quelque chose d'émotionnel. Je crois ces choses, certes, mais ces choses sont sans ces autres choses sont bonnes à rien. Comme je l'ai dit l'autre jour, c'est comme un pain ou un merle qui essaie de mettre des plumes de pain sur lui ou une buse qui essaie d'utiliser des plumes de colombe. Ils n'ont jamais poussé là. Il y en a mises sur lui-même. Elles sont plantées. Ce sont des dénominations. Mais quand Dieu y met quelque chose, c'est naturel. Vous vous faites dire, je me suis joint à l'Église hier soir, je ne peux plus rien faire pour lui. Je ne peux plus boire, je ne peux plus faire ceci, je suis joint à l'Église. Vous voyez, vous essayez de mettre des plumes de pain dans votre carcasse de buse. C'est vrai. Voyez. Vous devez naître de nouveau. Vous devez recevoir Christ. Et quand vous recevez Christ, vous ne pouvez pas recevoir Christ sans recevoir sa parole, parce qu'il est la parole. Et quand vous avez une forme de piété, que vous reniez ça, alors je vous demande. Voyez, et vous pouvez toujours faire partie des organisations que vous voulez avoir une forme de piété sans l'avoir pour autant. Maintenant, c'est ça, mes amis, c'est là toute la chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Je ne dis pas ceci pour être différent, je m'explique. Ceci étant une journée de cessez-le-feu, je ne signe pas un traité de paix avec vous, les ministres, pas du tout. Je pense que vous devriez venir signer avec moi, pas avec moi, mais avec Dieu, la parole. C'est vrai. Dites ce que dit la Bible, dites-le comme il l'a dit. Parce que la Bible dit, quiconque retranchera ou ajoutera celle-ci. Et voyez, l'organisation n'est pas scripturaire. Et quand vous recevez le premier dogme, vous feriez aussi bien de repartir au début parce que vous traversez la ligne juste là. Lorsque vous reviendrez à la nouvelle naissance, vous entrerez dans les Écritures. Si vous entrez dans une dénomination, ils disent, « Je sais que nous ne croyons pas en ceci. Les évêques de notre Église enseignent que nous sommes l'une des plus anciennes églises. Nous n'enseignons pas, peu importe ce qu'ils n'enseignent pas. Si la Bible enseigne, le Saint-Esprit en vous se nourrira de la parole. » Peu importe à quel point un homme est intelligent et comment il peut essayer de l'expliquer différemment, il peut l'expliquer différemment. Un infidèle peut prendre la Bible et expliquer Dieu différemment de vous. Par conséquent, aucun homme n'a le droit de prêcher l'Évangile, à moins qu'il n'ait été, comme Moïse, là derrière sur ce sol sacré où lui et Dieu se tenaient seuls, ayant qu'un homme naisse de nouveau et se tienne face à face avec Dieu, il n'y a pas d'infidèle, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'érudit dans le monde qui puisse vous enlever ça. Vous étiez là quand c'est arrivé. Oui, monsieur, vous savez ce qui s'est passé. Puis vous dites, j'ai eu ce genre d'expérience et j'ai eu un esprit sur moi. Et si cela renie la parole de quelque façon que ce soit, vous avez le mauvais esprit. Vous dites, je ne peux pas soutenir ce genre de choses comme ça. Je sais, mais notre Église, eux, il y a un mauvais esprit. Voilà votre marque d'identification. Caïn, tu es marqué, oui, monsieur. Ève a juste douté une toute petite parole. Pas tout ce que Dieu a dit, juste une toute petite parole, et cela a causé tous les troubles cardiaques et tous les chagrins, la mort, le péché, les batailles et toute autre chose. Chaque tombe, chaque sirène d'ambulance qui a pu retentir, chaque hôpital qui a été construit pour les malades, sous toute petite doute, petite parole de Dieu à cause de tout cela, et elle fut mise dehors alors que cela n'aurait jamais dû arriver. Comment allez-vous entrer en doutant d'une seule parole? Vous dites, je sais que ça dit cela, mais ça signifie exactement ça. Maintenant, regardez, Dieu doit juger le monde par quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir de jugement à moins d'avoir d'abord une loi. Il doit y avoir quelque chose. Il faut briser quelque chose pour être jugé, voyez? Et puis, il ne peut y avoir de jugement correctement sans pénalité. Maintenant, voyez, vous ne pouvez pas avoir une loi dans la ville qui dit une amende de 5 $ pour avoir brûlé un feu rouge et la loi suivante dit non, il peut être libre. Voyez, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il ne peut pas y avoir deux lois à la fois. Il y a une loi, un Dieu, un livre, un Christ. C'est tout. Une foi, une espérance. C'est tout. C'est la Bible. Christ. Remarquez. Maintenant, en ceci, s'il doit y avoir quelque chose ajouté à ceci, ça doit être ajouté par l'homme. Ça ne peut être plus que... Et si Dieu doit juger le monde par une église, comme le disent les catholiques, alors par quelle église catholique va-t-elle juger? Il y en a plusieurs. Il y en a une romaine, une grecque, et oh, il y en a toutes sortes. Par quelle église catholique va-t-il le juger? Ou peut-être qu'il va juger par les luthériens. Eh bien, peut-être qu'il va juger par les presbytériens, voyez? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas juger par une église. Il va le juger par sa parole. Eh bien, alors, il n'a jamais... Vous voyez, il ne se peut pas garder un groupe de personnes comme la vision de la sœur l'autre nuit. Le Saint-Esprit a été déversé. Il a traversé cette boîte. Bien sûr, rien ne retient ça. C'est un individu. C'est donné pour nettoyer l'Église. Mais ça ne peut être contenu. Aucune organisation ne peut le contenir. C'est tout. On ne peut tout simplement pas le faire. Vous avez tout là-dedans. Et vous ne pouvez pas le faire. L'organisation ne peut pas le faire, mais c'est l'individu qui a le Saint-Esprit. Maintenant, remarquez. Alors, si Dieu doit juger le monde par sa parole, alors il a certainement veillé sur elle pour la garder en ordre. Car si tout est embrouillé, comment va-t-il apporter le jugement? Voyez? Ça doit être quelque chose. Il n'a jamais dit quiconque par l'Église. Il a dit quiconque retranchera une parole de ceci ou y ajoutera une parole. Sa part sera retranchée, sa part du livre de vie. Donc, pour moi, c'est Dieu, sa parole et le jugement. Maintenant, si je juge et accepte la parole et que je vois que Christ est mort pour moi, alors je vais demander que sa vie entre en moi et me guide. Et si sa vie est la parole et qu'il a écrit la parole, comment sa vie va peut-être entrer en moi et que je prétends avoir le Saint-Esprit en ajoutant un dogme à la place de la parole? Ça ne marchera pas. Comment puis-je ajouter une dénomination quand il est contre cela? L'a prouvé, il a montré à travers l'histoire que chaque fois qu'il s'organisait, il mourait spirituellement. Or, ils grandissent en membres, bien sûr. C'est vrai, ils grandissent en membres. Mais spirituellement, ils n'allaient jamais nulle part. Montrez-moi, citez-moi dans l'histoire, une église ou jamais une église qui, après qu'elle se soit organisée, elle est morte là, le Saint-Esprit l'a laissée, il n'y a plus de miracle et de signe, elle a simplement continué dans le chaos. C'est exactement ce qui est arrivé à nos églises pentecôtistes. Ils ont fait exactement ce que leur mère a fait. Au début, ils sont sortis. Un peuple qui a rejeté les dénominations. Maintenant, certains d'entre vous, les frères qui écoutent cette bande, certains d'entre vous qui sont âgés, savent qu'il y a des années, il y a 40 ou 50 ans, si vous avez parlé d'une organisation, vous auriez dit que c'était un blasphème. Mais aujourd'hui, vous appartenez à la chose que vous pensiez être un blasphème. Vous, les femmes qui coupez vos cheveux et qui vous maquillez le visage, votre mère était contre cela, cette bonne vieille sainte pentecôtiste. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Paul a dit, vous couriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Voyez? Là-bas, vous étiez libre de tout ça, mais vous vouliez être comme les autres. Exactement ce que Samuel a dit. Israël avait un roi et c'était Dieu. Ils ont dit, Samuel, tu vieillis, choisis-nous un roi. Nous voulons être comme le reste du monde. Nous voulons être comme les autres nations. Nous voulons un roi pour mener à la guerre. Nous voulons un roi capable de mener nos batailles. Et cela déplut à Samuel. Il a dit, est-ce que je vous ai déjà pris quelque chose? Est-ce que je vous ai déjà pris votre argent? Est-ce que je vous ai déjà demandé un bœuf ou quoi que ce soit? Est-ce que j'ai déjà demandé quelque chose? Ils ont dit non, tu ne nous as jamais rien demandé. Il a dit, ne vous ai-je jamais parlé de quoi que ce soit au nom du Seigneur qui ne soit accompli? Est-ce exact? Il a dit, alors ne demandez pas ce roi, car cela signifiera le chaos pour vous. Maintenant, je veux vous demander quelque chose, Branham Tabernacle. Vous vous préparez à devenir un grand tabernacle maintenant? Je vais peut-être être absent pendant un moment. Je vais peut-être aller quelque part, difficile de dire, où le Seigneur m'appellera, peut-être m'enlever de la scène, peut-être de retour sur le terrain, peut-être qu'il pourrait m'appeler dans le désert. Je ne sais pas où il m'appellera jusqu'à ce que Jésus vienne. Je veux vous demander quelque chose. Est-ce que je vous ai déjà demandé quelque chose? Vous avez déjà supplié pour de l'argent? Vous avez déjà dit quelque chose, des milliers de choses que je vous ai dites au nom du Seigneur, que cela ne soit pas accompli? alors n'adhérez jamais à une organisation. C'est contre la parole de Dieu. Sortez-en si vous en faites partie et séparez-vous et recevez la parole du Seigneur. Inclinons la tête. Grand Dieu des prophètes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ajoute de la vertu, Seigneur, à ce petit message entrecoupé que j'avais à cœur depuis longtemps d'apporter à mes frères. Plusieurs d'entre eux là-bas, Seigneur, ont une mauvaise impression de moi. Ils pensent que je veux être différent. Ils pensent que j'essaie d'être un je-sais-tout. Ils ont dit aux gens que je trompais les gens, en particulier sur des sujets tels que le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus et sur la semence du serpent, la grande prostituée, et dans beaucoup de ces bandes qui sont sorties avec rien d'autre que la vérité pure. Et je leur ai demandé que certains d'entre vous viennent me montrer où je pêche, ou ne croient pas, ou interprètent mal la parole. Et aucun ne s'est présenté. Je te prie, Père, que ces hommes sachent qu'ils manquent l'heure. Ils vont attendre trop tard s'ils ne surveillent pas. Puissent-ils tous, Seigneur, j'en suis sûr, mon cœur se briserait si cette écriture n'était pas réelle pour moi. Quand tu as dit, « Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Mes brebis entendent ma voix. » Alors, Seigneur, je suppose que le royaume est vraiment comme tu l'as dit. Je le sais, c'est comme un homme qui a pris un filet et est allé au lac à jeter le filet. Il y avait sans doute des poissons nécrophages. Il y avait des tortues, des araignées d'eau, des serpents, tout ce que le filet de l'Évangile attrapait. Mais finalement, peu à peu, la langouste retourna dans l'eau, la tortue s'éloigna. Le serpent siffla et retourna dans le trou de boue comme un chien à ses vomissures ou un cochon à son bourbier. Mais il y avait de vrais poissons là-dedans, Seigneur. Et j'ai cette consolation de savoir qu'avant même que le filet ne tombe sur eux, ils étaient déjà des poissons. Ils sont nés, des poissons prédestinés. Il va en va de même pour le filet de l'Évangile qui attrape dans les réveils. Tu connais les tiens, la seule chose dont je suis responsable, Père, en autant que je sache, c'est de rester fidèle à cette parole. Tu es celui qui décide qui est qui, et je sais que pas plus que la tortue ne pourrait devenir une truite. De même, un homme ou une personne qui a l'oreille sourde à l'Évangile comprendrait la vérité. Car le Père a vu d'avance cela, et tu as promis que tous ceux qu'il t'a donnés viendraient. Père Céleste, je te prie que chaque personne qui entend ce petit message, cette lumière dans laquelle il a été prêché, et le sens que j'ai dans mon cœur envers mon prochain, les personnes pour lesquelles tu es mort, et les hommes, certains d'entre eux là-bas, Seigneur, comme dans le groupe de Corée, les hommes authentiques, conduits dans l'erreur, avec un encensoir sacré à la main, mais ils périrent. Pourquoi ils ne laisseraient même pas l'encensoir de feu entrer avec eux? Le fils d'Aaron et Lazare a dû les rassembler. Ils ont fabriqué une bannière pour l'autel à partir de ses bouilloires, un bouclier, pour montrer et pour commémorer cette chose horrible que Corée a essayé de former un groupe organisé contre le messager de Dieu. Loin de nous cette idée, Seigneur. Puisse le Saint-Esprit toujours nous protéger. Nous te remercions, Seigneur, pour notre petite Église, ce petit sanctuaire sacré. Il y a de nombreuses années, environ 30 ans, je me suis agenouillé dans l'étang rempli de mauvaises herbes et d'humidité. Et nous avons dédicacé ce terrain à toi. Cette petite structure est là-bas dans ce coin du tabernacle, se trouve cette vision. C'est arrivé exactement. Il est toujours là. Ils ne vont pas le démolir, Seigneur. Ils vont juste, il vieillit. Ils vont juste le préserver en mettant un par-dessus. Dieu accorde que cet évangile d'or qui est enregistré dans les pages ici, qu'il ne puisse jamais quitter cette petite église jusqu'à ce que Christ vienne, que tous les membres du corps du Christ, ils viennent ici de toutes les nations et du monde entier, puissent recevoir chacun la lumière, l'évangile, et entrer et recevoir Christ. Et que ce soit si réel que ces paroles s'accompliront. Les œuvres que je fais, ils les feront aussi. Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et quand la vie éternelle entre, ils naissent d'en haut et les œuvres de Dieu se manifestent parce que c'est la même vie qui est en lui. Ça ne peut rien faire d'autre. Alors, Père, que cette Église ne laisse jamais reposer sa destination éternelle sur une sensation ou sur une organisation, sur quoi que ce soit de moins que le Christ lui-même vivant en eux, confirmant sa parole à travers eux et sa promesse. Que du plus petit enfant ici ce soir jusqu'à la personne la plus âgée, tous reçoivent cette expérience. Et pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les garçons, toutes les filles qui entendent cette bande, qu'il en soit ainsi pour eux, Seigneur, donne-leur la compréhension que j'essaie seulement de prévenir et de crier, car cette heure est plus avancée que nous le pensons. Et nous voyons Babylone, la mère prostituée, et toutes ses filles prostituées se rassembler. Dieu, nous réalisons que les Écritures disent que l'ivraie dans le champ de blé sera lié en gerbe en premier. Ils se sont liés en gerbe, se faisant appeler les noms blasphématoires qui ne les représentent pas vraiment. Cela ne représente pas non plus l'Église. Ce sont des loges, pas des églises. Il n'y en a qu'une d'entre elles, Père, et c'est pour celle-là que tu es mort. Et je te prie, Père, comme les voyons en train de faire lier en gerbe pour un feu atomique, je prie, Seigneur, que tu laisses le blé devenir chargé et pesant. Accorde-le, Seigneur, puissions-nous grandir et faire briller la lumière et être comme Jésus. Si je ne fais pas les choses que Dieu a exigées de moi, alors je n'ai pas de vie en moi. Mais si Dieu parle et montre sa vie, alors c'est démontré. Alors, accorde-le, Seigneur. Je te remets ce message pour que tu le gardes et que tu amènes des dizaines de milliers de personnes, Seigneur, ou tous tes enfants prédestinés à l'Évangile, en Jésus-Christ, qui est la parole, je prie en son nom. Amen. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Je vais poser la question, combien ce soir, ici, dans cet auditoire visible, dans cette belle et grande église de Jean, ou maison de Jean, ou plutôt dans ce lieu de culte, qui croit de tout son cœur que votre vie est à la hauteur des exigences de Dieu et la Bible, et vous croyez qu'en regardant votre propre vie et en voyant la manière dont l'Esprit agit en vous, qu'il croit chaque parole comme il l'a écrit et la garde. Le croyez-vous? Dieu vous bénisse, qu'il garde toujours son esprit sur vous. Et à mon ami à l'écoute de cette bande, j'aurais aimé que vous puissiez regarder ici dans cet auditoire ce soir. Je suppose qu'au moins 90% des gens avaient la main levée, qu'ils ont cru et regardé la Bible, pas ce que dit l'Église, ce que dit la Bible, et non ce que dit la loge, ce que dit la Bible. et ils voient la vie de Christ s'y reflétant. Auparavant, avant d'avoir des fonderies, l'orfèvre battait l'or avec un marteau. Je suppose que vous avez entendu parler, avant d'aller à la fonderie, il le battait. Et l'or est le matériau le plus lourd, il est plus lourd que le plomb. Et donc, j'ai fait un peu de prospection, et vous pouvez prendre le sable au lavage dans le désert, frotter la main sur le sable, puis souffler comme ça, et la poussière et tout s'envolera, les pierres. Mais l'or est si lourd qu'il reste là. Et puis, quand vous ramassez cet or, il est passé à travers tant de saleté qu'il en accumule beaucoup. Et à travers les âges volcaniques, comme il en a accumulé, il y avait de la boue et tout, et de la pyrite de fer, d'autres matières mélangées avec elle. Le batteur avait l'habitude de prendre ce morceau d'or, de le battre, de le tourner, de le battre, de le retourner, jusqu'à ce qu'il en fasse sortir toutes les scories. Et vous savez comment il savait qu'il avait fait sortir toutes les scories? Il pouvait voir sa propre image s'y refléter. Et c'est ainsi que Dieu fait avec l'Église. Il fait sortir chaque credo, chaque dénomination, chaque dogme créé par l'homme, jusqu'à ce qu'il voit sa propre vie se refléter en vous. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Voyez, si ce qui est destiné à l'Église, la vie qui était en Christ, ne se reflète pas en vous, ne vous arrêtez pas. Si vous n'avez pas la patience, la vertu, toutes ces choses, la tempérance et les choses, la piété et l'amour fraternel et toutes ces choses qui vous sont exigées, peu importe ce que vous avez fait, peu importe combien vous avez crié, combien d'églises vous avez joints, combien de plumes vous avez épinglées, ne vous arrêtez pas. Attendez que de façon authentique, de votre cœur, vous puissiez pardonner, jusqu'à ce que dans votre cœur, vous alliez l'amour fraternel. Peu importe s'ils arrachent une poignée de barbe d'un côté, vous pouvez tourner l'autre joue avec douceur, voir jusqu'à ce que ces vertus, peu importe ce qu'ils vous disent. Quand ils ont mis un chiffon autour de son visage et l'ont frappé sur la tête, ils ont dit, « Maintenant, ils me disent que tu es prophète. » Puis il arracha le chiffon et l'un d'eux tenant le bâton dit, « Lequel d'entre nous te frappe? Prophétise et dis-nous, alors nous croirons que tu es un prophète. » Il n'a jamais ouvert la bouche. Quand vous entendez un prophète se lever, qui a toutes les réponses à toutes les situations que vous évoquez, souvenez-vous, il n'est pas un prophète. Aujourd'hui, ils doivent tout savoir. Quand vous allez avoir mal aux dents, quand vous allez avoir mal au ventre et tout le reste, et de tout vous dire là-dessus, ce n'est pas la nature de votre Dieu. Regardez les prophètes, regardez Jésus, regardez Paul. Quand il pouvait frapper un homme d'aveuglement et laisser le forgeron le chasser du pays, je suppose qu'il a perdu le pouvoir de frapper d'aveuglement. Jésus qui pouvait ressusciter les morts, et pourtant il est dit qu'un soldat ivre lui a craché au visage, et a craché, a arraché de la barbe de son visage, et l'a frappé à la tête avec un chiffon autour de lui. Il a dit, « Prophétise et dis-nous qui t'a frappé. » Il n'a pas ouvert sa bouche. Ne regarde pas tous ceux qui créent des situations. Mais rappelez-vous, ils ne font que parler. Un faux dollar veut juste dire qu'il y en a un vrai quelque part. Quand vous voyez cette organisation se développer et prospérer comme il a été dit, le commerce prospérerait dans sa main. Rappelez-vous, il y a une petite église de Dieu quelque part, vraiment remplie de l'esprit authentique qui monte l'échelle. Ne regardez pas à la grande organisation. De quelle plus grande église parle-t-on dans la Bible que de l'âge de l'église d'Éphèse? Et quand Paul traversa les côtes supérieures d'Éphèse et arriva à cette église, il y avait 12 hommes. C'est vrai. Ils étaient tous de bonnes personnes, criaient et passaient un moment, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Paul a dit, « Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Ils ont dit, « Nous ne savions pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il a dit, « Alors, comment avez-vous été baptisés? » Si cela ne faisait pas de différence, qu'a-t-il dit à cette église là-bas? Ils ont dit, « Nous avons été baptisés par l'un des plus grands hommes qui ait vécu sur la terre, Jean-Baptiste, qui a baptisé notre Seigneur. Ce baptême n'est pas suffisant? » Il a dit, « Non, monsieur. » Tu dois être baptisé parce que le royaume est scellé à toute autre chose. Et quand ils ont entendu cela, Jean a seulement baptisé pour la repentance, pas pour la rémission des péchés, en disant que tu devais croire à celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. Et quand ils entendirent cela, ils furent rebaptisés au nom de Jésus-Christ. C'est vrai. Exactement. Ils ont suivi les Écritures. Vous savez, dans la dédicace de ce matin, Moïse a suivi le schéma qu'il a vu au ciel et a dressé une tente pour le présenter. Quand Salomon a construit le temple, et qu'est-ce qu'il a fait? A suivi le modèle que Moïse par la tente, gardant les Écritures en ligne. Et quand Dieu est venu dans son temple pour les derniers jours, ce temple, le Saint-Esprit, tu m'as préparé un corps. Le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte. Le message était, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Si vous voulez appeler votre ministre un docteur, le docteur Simon-Pierre a écrit une prescription éternelle. C'est ce qui guérit les malades. Laissez certains de ces charlatans essayer par dénomination de la remplir autrement. C'est la raison pour laquelle ils ont, vous savez, si vous n'ajoutez pas, si vous avez trop à la prescription, vous pourriez trop de poison, vous pourriez tuer votre patient. Si vous n'y mettez pas assez, vous, pas pour l'antidote, si vous ne le faites pas, cela ne fera du bien à votre patient. Votre médecin sait exactement comment rédiger la prescription. Et Christ, le Saint-Esprit, est l'auteur de la prescription. Il l'a écrit. N'ajoutez rien à cela, n'en retranchez pas. Prenez simplement le médicament comme il est. C'est le remède contre toutes les maladies. Dieu vous bénisse. Vous l'aimez? Amen. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Just my salvation. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, pendant que nous nous fredonnons, maintenant, retournez-vous et serrez la main à votre voisin, ou c'est aussi un pèlerin qui est de passage. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et salut. Viens dans cette allée, oui, merci mon frère. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime. Chantons-le maintenant. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, inclinons la tête, fermons les yeux, levons nos mains et nos voix vers Dieu. Maintenant, comme je vous remets au pasteur, nous sommes heureux de vous avoir ici. Nous ne sommes pas une dénomination, nous n'avons pas d'autre loi que l'amour, pas de credo, mais Christ, pas de livre, mais la Bible, pas d'adhésion, juste la communion par le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de toute incrédulité. Très bien, tous ensemble maintenant. Dieu vous bénisse. Revenez nous rendre visite parce qu'il m'a aimé. Très bien, pasteur. Tu es prêt? Dieu te bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse, la réunion est terminée.